La raison pour laquelle les gens ont de bonnes idées sous la douche est que c'est le seul moment de la journée où la plupart des gens sont éloignés de leur écran suffisamment longtemps pour penser clairement. La leçon à tirer n'est pas de prendre plus de douches, mais plutôt de prendre plus de temps pour réfléchir. James Clear. Les amis, bienvenue dans Road to 10 Million, votre petit moment de réflexion. Merde, je me suis muté. Putain, j'en ai marre de rater mes entrées comme ça. En plus, j'avais bien lu la citation, j'avais répété avant de lancer l'enregistrement. Je suis extrêmement content de vous retrouver. Malgré tout, d'autant plus que voilà, nous sommes dimanche 17 mars, il est 15h11. Vous avez bien entendu, 15h11, je n'ai jamais enregistré un podcast aussitôt. C'est parce que à 17h, il y a le live sur le Discord Road to Scale, qui va bientôt ouvrir ses portes. Et je dois aller me taper une petite sortie longue pour clore cette semaine de préparation marathon qui et c'est la fin de la semaine, il reste plus que trois semaines, donc c'est la dernière séance de la quatrième semaine avant la fin. Ouais, je sais même plus où j'en suis sur le compte, ça doit être la semaine 16 ou un truc comme ça, j'en peux plus, c'est une éternité. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Bienvenue, le menu du jour est corsé. Il y a combien de pendules? Il y en a six pendules et pas mal de contenu à vous recommander, beaucoup de citations. Il n'y aura pas d'FAQ à la fin parce que j'ai pas d'excuses, j'ai oublié j'ai oublié de faire la story parce que justement voilà, je me suis organisé pour vraiment lancer l'enregistrement autour de 15h10 pour me laisser à peu près 2h pour pouvoir enregistrer, mais du coup voilà, j'ai fait passer 2-3 trucs à la trappe, donc je vous tease un petit peu les pendules avant de faire l'introduction du podcast. On va parler d'immaturité intellectuelle, on va voir comment ne pas se perdre dans le monde des idées, on va voir un petit peu pourquoi est-ce qu'il y a un déficit de représentativité entrepreneuriale à la campagne, issu d'un déj très intéressant que j'ai avec quelqu'un. On va parler d'autoflagellation et de son utilité cachée, et d'autres. Voilà, il y en a 6 au total. Mais, avant tout, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce podcast et qui sont arrivés ici par hasard, ou recommandés par un ami, ou alors dans le classement top 10 entrepreneurs, catégorie entrepreneuriat, pardon, puisque maintenant nous sommes des réguliers dans cette catégorie, vous êtes bien dans Road to 10 Million. Je m'appelle Théo Lyon, j'ai 26 ans et je suis le fondateur de Kodak, mon groupe d'agences qui aide les entreprises à grossir en ligne, dont la plus connue d'entre elles est mon agence Ads qui s'appelle aussi Kodak. Donc en 3 ans et demi, je dis encore 3 ans et demi pour 2 semaines, puisque notre anniversaire des 4 ans aura lieu le 1er avril, ça n'est pas une blague. Donc en 3 ans et demi, nous avons atteint 417 000 euros de chiffre d'affaires mensuel et plus de 62 salariés, 64 exactement. L'étape suivante, c'est de l'emmener à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est ce challenge qui donne le nom au podcast. Et j'ai pour objectif de le faire avant fin 2024. Dans cette émission, je me sers de mes expériences personnelles, rencontres et lectures diverses pour vous apprendre comment atteindre le top 1% dans ce que vous faites. L'idée sous-jacente de ce podcast est que l'entrepreneuriat n'est qu'un prétexte pour se scaler soi-même. Et inversement, vous scalez vous-même à de grandes chances de faire de vous un excellent entrepreneur. J'essaie de faire en sorte que vous terminiez chaque épisode en ayant appris au moins une chose qui vous aide à grandir plus vite ou plus loin. Merci d'être avec moi et bienvenue dans l'épisode 37 de Road to 10 Million. Je suis sous petit café, vu qu'il est 15h. Voilà, je peux boire tranquille sans avoir peur des effets de la caféine sur mon sommeil. J'essaie d'arrêter. Bon, c'est plutôt 14h d'abord. Non, il y a rarement des cafés après 14h, mais la podcast l'obligeait. Il fallait que je profite du fait que j'enregistre tôt. Je suis extrêmement content de vous retrouver. Donc la semaine dernière, mes petits amis, on avait fait un petit épisode sur une FAQ qui a fait beaucoup plus de vues, enfin d'écoute d'ailleurs, que toutes les autres FAQ. Donc je me demande vraiment ce qui vous a plu dedans. Je pense qu'il y a quelque chose dans le titre. Ça doit être soit l'horizon d'exit, soit Dubaï. Ce sont mes deux suspects principaux dans le titre. Donc, allez le consommer si jamais ça n'est pas déjà le cas. Le titre exact, c'est « Mon horizon d'exit, Dubaï, les gourous LinkedIn, déléguer, choisir les bonnes personnes, la nutrition d'un entrepreneur, Doumbé, and more ». Et en fait, ça aurait pu me servir d'excuse pour ne pas avoir fait de FAQ à la fin de cet épisode-là. J'aurais pu vous dire « Oui, mais j'en ai fait une la semaine dernière ». Non, ça n'est pas vrai, j'ai juste oublié. Mais bon, voilà, si vous voulez des réponses aux questions, je mets l'autocollant, quand j'y pense, le dimanche, sur le compte Instagram theo.le.lyon. Donc je vais faire un petit rappel en début de podcast et je le referai après. N'oubliez pas d'aller mettre une note à ce podcast si jamais vous êtes un auditeur régulier et que vous ne l'avez pas encore fait. De toute façon, si vous découvrez cet épisode, vous n'aurez pas le droit d'en mettre. Je crois que Spotify ne laisse pas mettre des notes. Il faut bien aller cliquer sur « Évaluer l'émission ». C'est les 3 petits points quand vous allez sur la fiche et vous pouvez mettre 5 étoiles si c'est 5 étoiles. Vous pouvez laisser un petit commentaire aussi pour les nouvelles personnes qui vont découvrir ce podcast pour qu'ils sachent par lequel commencer. Vous pouvez mettre votre préféré. Et voilà, ça me fera extrêmement plaisir, c'est très cool, on avance très vite, vous allez voir, parce que ça, de toute façon je fais le décompte des notes, et on en parlera juste après, je vous spoile pas, mais voilà, merci beaucoup, et en plus il y a un petit tirage au sort qui arrive bientôt, pour assister à des tournages de la chaîne YouTube. Donc, précédemment dans Road to 10 Million, on avait vu cette FAQ, toc, et voilà, en fait, il n'y avait pas mis le truc de plus, C'est tout, hein. En vrai, parce que l'épisode d'avant standard, c'était Le bon juge ne juge pas, qui vous a aussi beaucoup plu. On fait pas mal de bangers sur les derniers épisodes, je suis trop content. Et le manifeste entrepreneurial, là, qui est en train de prendre le large, c'est en train d'être un des épisodes les plus écoutés. Et franchement, on commence à faire des volumes qui sont cool. C'est impressionnant. Je ne pensais pas que le podcast prendrait cette ampleur. Ça fait pas encore un an que je le fais. Ça sera en juin. Je vous ferai un petit épisode spécial, je pense, pour. Ça sera la fin de la saison 1, du coup. Et après, on mettra des petites nouveautés pour la saison 2, certainement. Mais je suis trop content que le podcast vous plaise. Je reçois tous vos retours. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram aussi pour me dire ce que vous en pensez, si vous avez des recommandations. J'écoute pas mal en général. Alors, ça ne veut pas dire que je vais faire ce que vous dites, mais je prends compte. Donc, on commence par la structure habituelle du podcast, ceux qui connaissent. Il y a les actus, ensuite, il y a les pendules à l'heure, et ensuite, il y a le meilleur de la semaine. Et à la toute fin, quand il y a le temps, il y a une FAQ. Et on termine par une petite citation pour vous permettre de démarrer vos semaines proprement. Alors, petites actus, parce que là j'ai 2 semaines à vous faire. Donc il y a du perso, il y a du pro. Donc le week-end dernier, je vous ai fait l'épisode un petit peu en retard. La FAQ elle est sortie je crois mardi soir, c'était assez tard. Mais c'est parce que j'ai passé un petit week-end avec ma grand-mère. Alors vous allez voir pourquoi je vous en parle. Donc c'était son cadeau de Noël, je l'ai emmené à Nantes, ville dans laquelle elle habitait avant qu'on la rapatrie autour de, enfin à Versailles. Donc là où est le reste de ma famille. Et donc elle n'y était pas retournée depuis le déménagement, donc je vais faire ça à Noël, c'était très cool, on a fait 2 jours. J'aime beaucoup la ville de Nantes, même si tout le monde dit que ça craint, j'irai jamais assez longtemps je crois pour avoir le temps de le voir. Donc à chaque fois je m'amuse bien et j'ai quand même passé pas mal de temps dans mon enfance, donc j'ai un rapport sentimental très sympa avec cette ville. Et j'ai trouvé ça très cool parce que ça faisait longtemps que j'avais pas passé autant de temps avec ma grand-mère et à chaque fois que je passe beaucoup de temps avec elle, franchement c'est incroyable en fait en termes de... Parce qu'on a le temps de discuter de sujets beaucoup plus profonds. Et en fait, je vous invite vraiment, si vous avez des... Ça fait un très bon prétexte pour aller parler aux personnes âgées dans votre famille. Si jamais vous avez un peu la flemme ou pas forcément l'envie, dites-vous que ces gens-là sont assis sur une mine d'or de connaissances et de sagesse que vous ne soupçonnez probablement pas. Même si ce n'est pas des gens qui ont fait des carrières intellectuelles, j'en sais rien, des trucs incroyables, c'est des gens qui ont vécu à une époque que vous ne vivrez jamais. Et qui pourtant en fait fait partie de notre histoire assez récente. Donc c'est incroyable parce que j'avais passé le nouvel an aussi avec ma grand-mère et elle avait passé deux ou trois heures à me raconter l'histoire de comment ça l'avait rencontré mon grand-père et un petit peu comment en fait elle était issue d'une famille divorcée et à l'époque en fait le divorce ça n'existait pas. Elle me racontait aussi pendant la guerre d'Algérie le mécontentement du peuple français, les bombes qui explosaient dans Paris, c'est des trucs dont on a du mal à réaliser, mais c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 50 ans. C'était il y a 50 ans tous ces trucs, et elle me racontait plein de choses évidemment que je vous épargne parce que c'est pas le thème de ce podcast, mais elle a une vision très lucide et pas du tout judgmental, qui juge pas très jugeante sur tous nos sujets de société actuels, où en fait elle prend les trucs de façon très pragmatique. Et elle m'a dit une phrase que je trouvais assez belle. Je disais, et j'ai l'impression que les femmes sont beaucoup plus libres aujourd'hui, mais j'ai pas l'impression qu'elles soient plus heureuses. Et ce truc-là, ça fait. Elle a des punchlines comme ça parfois. Et donc c'est des sujets qui font un peu réfléchir. Voilà. Et donc entre autres, je prends celui-là comme par exemple, mais ça donne des super réflexions où en fait elle juge pas beaucoup de rien. Elle est pas, c'est pas une personne aigrie. Et donc c'est super agréable de l'entendre parler. Donc c'est très intéressant parce que donc ça m'a permis de pas mal. Réfléchir à ces trucs-là, donc je vous encourage à le faire. Et c'était intéressant, c'était un week-end intéressant, c'était pas un week-end chiant du tout. On découvre plein de choses, en fait, en étant aux côtés d'une personne âgée, je trouve. Et notamment, en fait, on comprend pourquoi les personnes âgées sont souvent ancrées dans des habitudes, et elles veulent pas forcément changer leur petite routine. C'est parce qu'en fait, si vous mettez à leur place, elles n'ont aucun ROI à changer leurs habitudes. Elles ont toujours fait comme ça, ça marche très bien. Le gros de leur vie est derrière eux. Et donc je trouve qu'il ne faut pas forcément juger une personne âgée qui a toujours fait son truc de la même façon, même s'il existe une façon plus optimale de le faire. Ça sert à rien d'expliquer à votre grand-mère que sa to-do elle pourrait la mettre sur un iPad, ça serait beaucoup plus simple, elle n'aura pas besoin d'écrire sur son frigo des trucs. C'est très marrant. Et oui, alors du coup aussi point peut-être un petit peu moins marrant mais qui est très important pour vous donner envie de faire attention à votre famille un peu. J'ai vraiment l'impression que ce qui accélère la fin d'une vie, c'est la solitude. Première leçon, passez un petit coup de fil, ça coûte rien à votre famille. Ça fait, c'est parfois la lumière dans une semaine. Et ensuite, vous-même faites des gosses parce que sinon vous allez être bien, bien seul quand vous serez grand, bah du coup pas grand-parent, quand vous serez vieux, tout court. Voilà, donc ce week-end était très sympathique et surprenamment bien. J'y allais pas pour m'éclater, normal, hein, mais j'ai quand même passé un bon moment. Voilà, donc c'est pour cette petite actu qui fait que l'épisode de la semaine dernière est sorti un petit peu en retard. Maintenant, petite update de la prépa marathon. Bon, je sors d'une bonne semaine, quand même. Il me reste une sortie longue, donc j'ai pas encore, on peut pas vraiment dire encore que c'est une bonne semaine. Mais en tout cas, j'ai un peu surdélivré. Si j'arrive à faire la sortie longue bien nickel juste après le podcast, eh bien, on pourra dire que c'était une réussite parce que hier, j'ai accompagné mon ami Guillaume Puech, associé de Koudak, donc CEO du labo, dans sa course EcoTrail. Donc j'ai fait les 20 derniers kilomètres avec lui. Et cette course est une épreuve sans nom et d'une difficulté physique et mentale. Parce qu'en gros, c'est 80 km hein, de course, pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est horrible. Donc je suis allé rejoindre dans la forêt de Chaville, là, et donc j'ai fait un peu le parcours avec lui. J'avais jamais fait de trail. C'est cool, mais c'est dangereux. Et franchement, je voyais les. Parce qu'en fait, j'ai remonté le parcours pour aller le retrouver le plus tôt possible. Donc je faisais dans le sens inverse. Donc je voyais les visages des gens qui n'avaient vu personne depuis. Personne de face depuis genre je sais pas 20 km quoi. Et je voyais il y en a qui avaient des visages, c'était des cadavres. Ils me regardaient mais ils étaient pas derrière leurs orbites. Et tu en fait, il y a tous ces gens-là qui avaient choisi volontairement, personne les avait forcés probablement à faire cette course. Enfin, ils avaient choisi de faire cette course. Et donc à la fois ça force le respect et il y a quand même une et pour avoir accompagné du coup Guillaume sur les derniers kilomètres, on lit l'épreuve mentale sur le visage d'une personne. Et c'était dur parce que c'est un mec qui se plaint pas trop, mais tu vois, en fait, tu vois la souffrance et je trouvais ça assez inspirant. Voilà, parce que vous savez aussi, Guillaume, c'est celui qui a mis tout le monde au running chez Koudak, donc c'était cool de le voir aussi. Hein. Donc on l'a lâché juste avant parce que l'arrivée était à la Tour Eiffel de l'EcoTrail, donc ça fait à la Tour Eiffel elle brille quand t'arrives à genre 20h, 21h, un truc comme ça. Et ça rappelle que voilà, les runners et surtout les runners longue distance sont parmi les gens les plus solides mentalement de ce monde. Voilà, je me rends compte parce qu'on est sur la fin de cette prépa marathon aussi et franchement, je suis fatigué du running. J'en fais trop là. J'ai un petit peu plus de mal à prendre du plaisir et le seul truc qui me motive, c'est la course et le fait de passer la ligne du marathon dans 3 semaines, Inch'Allah, 7 avril. Et après, voilà, ce sera la fin de l'arc marathon, pas la fin, je pense, du running. Mais il faudra se trouver autre chose, un autre défi sportif peut-être, ou alors prendre une petite pause. Donc j'ai une petite semaine de pause de prévu, je ne sais pas s'il y a un podcast qui sortira après le marathon, parce que je pars à New York une semaine, c'est la première fois que j'y vais. Donc je suis hyper excité, j'y vais avec David, pour aller voir une petite conférence de quelqu'un que vous connaissez peut-être ou pas d'ailleurs, un Américain, qui est un docteur, qui s'appelle Jordan Peterson, et qui fait une conférence sur son nouveau bouquin. Et donc voilà. Moi je vous ai dit, déjà j'aime bien faire des voyages toujours avec un purpose, donc avec une pour aller voir quelque chose et pas juste pour visiter un pays parce que l'expérience c'est pas le truc qui me motive le plus pour voyager. Je sais que c'est pas très populaire. Moi j'aime bien aller soit pour un concert, pour un match et je trouve que ça accentue en fait le souvenir et la façon dont ça s'ancre dans ta mémoire. Donc voilà. Une petite gorgée de café là qui commence à refroidir. Other news. Je me suis rendu lundi dernier à l'ISEG, pas l'ISEG, l'ISEG à Lyon, pour travailler un petit peu mes compétences de conférencier. Voilà, donc j'ai fait une conférence où je parlais de personal branding et stratégie de contenu à destination des étudiants. Donc si vous êtes un étudiant en train de m'écouter actuellement, ne vous inquiétez pas, la conférence a été filmée en vidéo et sortira courant du mois d'avril, probablement. Donc vous aurez tout ça. Et alors je suis très content d'avoir fait cet exercice parce que j'ai l'impression que le format conférence... Alors, déjà le format conférence, format long, ça me permet de plus jouer sur mes compétences à moi qui sont plutôt l'improvisation et le fait de dérouler des idées, donc je suis dans un bon jour. Alors c'est très cool et j'ai envie de le travailler. Et la seconde chose, c'est que comme c'est une conférence en live, il y avait du public, donc il y avait, je crois, 120 personnes, un truc comme ça. Ça rajoute une couche de complexité qui est supérieure. Donc c'est pas du tout la même chose que de tourner une vidéo dans son salon non scriptée. Donc voilà, j'avais une petite presse, j'ai envie de travailler ça pour être le plus impactant possible, parce que j'ai l'impression que c'est un format qui correspond aux idées que je veux délivrer, et qu'à chaque fois, les gens sont assez contents quand j'en fais. J'y mets du cœur. Donc, je suis content, et voilà, j'ai prévu de le refaire, a priori. Voilà, petit point sur les sorties de la semaine. Après, je vous parle de mes objectifs de la semaine. Donc, c'était un petit peu compliqué, d'ailleurs, de vous faire le bilan des objectifs de la semaine précédente, parce que, comme on a fait un épisode spécial la semaine dernière, on a sauté une semaine. Donc, le accountability sera retardé d'une semaine. Donc les sorties de la semaine. On a sorti la semaine dernière une vidéo sur la game theory. Donc où je vous parle de comment utiliser la théorie des jeux pour prendre de meilleures décisions. Alors c'est une vidéo, figurez-vous, qui avait été enregistrée il y a plus d'un an. je crois qu'on s'en rend pas trop compte à ma coupe de cheveux. Mais elle était dans le board depuis longtemps. On attache beaucoup de vidéos qui attendaient dans le Notion et qui n'étaient plus forcément au goût du jour. Celle-là, on l'a gardée. Je suis assez content du rendu parce que bon, la miniature est cool et le montage est pas mal. Et j'ai l'impression que même si elle n'est pas partie en couille en termes de vues, elle vous a plu. Elle a un très bon taux d'engagement et elle se consomme assez bien. Voilà, 12 minutes, normalement ça se fait. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a une résonance supplémentaire dans le fait qu'apparemment, on me l'a beaucoup dit par message et en commentaire. Yomi et Osama en avaient parlé dans Sans Permission, je crois. Alors j'ai un petit peu décroché du podcast, donc je pourrais pas vous rediriger vers l'épisode en particulier. Et donc c'est cool, ça a donné un peu de résonance. Je crois qu'ils en ont parlé, donc voilà. Et cette semaine, on va sortir une vidéo sur YouTube. Ça sera un entretien avec Jokariz. Et oui, on fait le retour, le match retour qui aura lieu sur ma chaîne. Et donc il est venu à Versailles tourner. Je vous l'avais dit. Et on a tourné un petit entretien de 55 minutes dans lequel on parle des banques et des écoles de commerce. Ça va piquer, il y a de la punchline, il s'est pas retenu. Maintenant, objectif de la semaine, et puis après on va passer au pendule, tranquille, après le point des chiffres. Donc objectif de la semaine, j'ai 5 choses que j'ai envie de faire cette semaine, et je vous invite à le faire avec moi. Cette section-là, en fait, c'est pour créer de l'accountability, c'est très important pour la productivité, avant une semaine, d'essayer de synthétiser ce qui ferait que votre semaine est un succès, et souvent c'est pas beaucoup de choses, donc pour ça il faut les noter en début de semaine, dimanche ou lundi, parce qu'après votre cerveau va vous jouer des tours la semaine, il va vous dire non en fait ça c'est pas important, blablabla, je sais pas quoi. Donc première chose, avoir validé les lieux pour la tournée Koudak. Donc vous savez, on va venir aux quatre coins de la France, on vient dans 7 villes, vous pouvez aller retrouver, j'en ai parlé sur LinkedIn, donc on va se déplacer, faire des petites conférences en petit comité sur le groupe. Donc ceci aura lieu, il faut que je trouve les endroits pour recevoir tout le monde, ça sera fin avril. Seconde chose, j'ai envie d'avoir clarifié la vision Koudak, parce qu'il y a 2-3 trucs qui vont évoluer, et le point d'équipe, parce que ça va être la fin du trimestre, donc c'est le moment où on se retrouve tous entre membres de l'équipe Koudak, et donc il faut que je prépare un petit peu mon speech, et que j'en profite pour réaligner tout le monde sur la vision de la boîte, donc il faut que je travaille dessus. On va préparer une petite communication pour nos 4 ans qui auront lieu dans quelques jours. Donc il faut que je réfléchisse à comment est-ce qu'on va utiliser ce moment-là. Il faut que je... Ouais, donc le quatrième point, je ne peux pas vous en parler parce que c'est privé. Mais le cinquième, c'est... j'ai testé un truc avec la boîte qui aura lieu à partir de lundi. C'est de commencer toutes les semaines avec un point avec toute l'équipe. De 15 minutes, dans lequel je présente une petite idée qui me semble utile pour le travail de tout le monde. Je présente 2-3 infos importantes de Koudak, et je prends les questions des gens. Et donc c'est à 8h45 le lundi matin, et donc j'ai envie que le premier point soit bien, puisqu'on va parler de Blitzkrieg. Voilà, et donc j'ai poussé la réflexion un peu plus loin, vu que j'ai fait une vidéo YouTube. J'ai 2 heures de rush, donc je sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, donc j'ai pas mal de choses à dire, et que je voudrais partager aux membres de mon équipe. Café terminé, petite gorgée pour faire passer ça. On passe aux chiffres. Les chiffres, comment sont-ils en termes de notes? On en est à 690 sur Spotify. Alors on n'aura pas les 1000 avant la fin du trimestre. C'est désormais officiel. À moins qu'en 13 jours, vous allez y mettre 310 notes. Ça m'étonnerait. On est à 250 sur Apple Podcasts. C'est toujours un peu plus lent, mais ça progresse. C'est ça qui est important. Donc je vous rappelle que toutes les personnes qui m'ont envoyé par message Instagram, la capture d'écran de eux en train de mettre un 5 étoiles sont inscrits d'office pour le tirage au sort du prochain Enlève tes chaussures pour le tournage. Et je ferai gagner aussi un accès gratuit au Discord Road to Scale. Voilà, donc 2 choses à gagner si vous avez mis des notes. Et voilà, donc allez donner de la force. Il y a aussi un petit peu de retour pour vous. D'un point de vue écoute, toujours béni de public, on est à 161 000 écoutes depuis le début du podcast. Très content des chiffres. On sera un peu short pour l'objectif de 200K avant la fin du Q1, à moins qu'il y ait 39 000 personnes qui écoutent un épisode cette fin de trimestre, ça m'étonnerait. Mais on progresse toujours, et ce qui est important, c'est que de semaine en semaine, le truc ne va jamais vers le bas. Donc c'est super, et j'arrête de vous barber avec toute la partie actuelle qui, je m'en rends compte, était un petit peu longue. Ça fait 20 minutes, et on passe au pendule. Alors, on va prendre notre temps. Présentation de la partie pendule. Les pendules, c'est quoi? C'est une petite section dans ce podcast qui est empirique, par opposition à intellectuelle. Ça veut dire qu'elle vient du... Non, c'est pas vraiment par opposition à intellectuelle, mais ça s'ancre dans des petites observations du quotidien qui n'ont pas forcément une valeur... pas valeur de vérité, donc ce ne sont pas des théorèmes, ce sont des petites observations qui sont censées stimuler une partie de votre système de connaissances pour venir soit s'y apposer, soit s'y opposer, dans le but d'étayer un petit peu vos réflexions, et parce que ce sont des réflexions que j'ai chaque semaine, que je me note dans mon application note, très simplement, de l'iPhone, et que je vous partage après les avoir un petit peu écrites dans cet épisode. Voilà. Je vous lis le titre des 6 pendules, et ensuite on va s'engager. Premièrement, on va parler d'immaturité intellectuelle. Seconde chose, on va voir comment ne pas se perdre dans le monde des idées. Troisièmement, on va voir un petit modèle mental qui est « How did you come into this situation ?» en anglais. Numéro 4, on va parler d'autoflagellation. Numéro 2, on va parler des deux types de mauvaises associations entre associés, basé sur un petit passage que j'ai vu de Sam Altman, qui m'a évoqué beaucoup d'idées. Et numéro 6, on va parler... la pendule numéro 6 s'appelle à la campagne, tu fais ce que ton père fait. Ça vous va? Vous pouvez toujours pas répondre. Hein. Alors, premièrement, numéro 1, pardon, l'immaturité intellectuelle. Alors, je vais commencer par une petite citation de Kant que j'ai consommée dans une newsletter qui s'appelle Wisdom of Philosophers, je sais plus, sur Substack, et toutes les semaines, il t'envoie, c'est même plusieurs fois par semaine d'ailleurs. Il t'envoie 5 citations d'un philosophe en particulier ou d'un littéraire. Et donc là, c'était un épisode sur Kant. J'ai trouvé un truc stylé et une seconde, je crois, qui est dans la pendule numéro 2. Et je vous la lis. Donc, ça vient de « Qu'est-ce que l'illumination ?» d'Emmanuel Kant. « L'illumination est la sortie de l'homme de l'immaturité qu'il s'est lui-même infligée. L'immaturité est l'incapacité d'utiliser son intelligence sans la direction d'une autre. » Donc, d'une autre intelligence. Alors, cette petite citation a mis beaucoup de lumière sur ça m'a permis de comprendre ce qu'une aventure entrepreneuriale change chez quelqu'un. Et qui, si on le résume simplement, c'est que je trouve que ça rend mature. Alors, c'est pas le seul moyen d'arriver à la maturité, mais ça va pas mal dans le sens de, en fait, il y a un peu une incompatibilité entre essayer de construire quelque chose qui est singulier, ou qui n'est pas dans un chemin qui a déjà été tracé par quelqu'un d'autre, et le fait de ne pas réussir à faire fonctionner son intelligence sans la direction de quelqu'un d'autre. Donc en fait, souvent, les aventures entrepreneuriales qui sont couronnées de succès sont faites par des gens qui ont acquis cette fameuse maturité. Et enfin, alors, maturité au sens large, je ne sais pas, mais en tout cas, une certaine maturité intellectuelle ou maturité d'action, je ne sais pas comment est-ce que vous caractérisez l'acte entrepreneurial. Donc, inversement, ça aussi... ça m'a permis aussi de donner un petit peu de clarté à ce que je reproche à pas mal de carrières qui sont issues d'écoles de commerce, c'est que je trouve que dans leur choix, ça ne veut pas forcément dire que les personnes qui font le choix sont immatures, mais en tout cas, ce sont des choix qui sont souvent immatures. C'est-à-dire qu'ils sont pris sous la direction intellectuelle de quelqu'un d'autre. Ça peut être l'école de commerce elle-même qui va pousser dans cette direction, ou alors ça peut être leurs parents et qui vont les pousser dans les voies naturellement. On ne peut pas leur jeter la pierre, hein, d'ailleurs. Ils vont les pousser vers les voies qui ont le moins de chances de les rendre pauvres, mais qui ne sont pas forcément celles qui ont le plus de chances de les rendre heureux. Et donc en fait ces carrières-là, c'est marrant parce que du coup je pense, hein, forcément, c'est toujours les mêmes, hein, les coupables, hein, c'est les conseillers en stratégie et finance, souvent M&A. Et puis pour cet exemple-là en particulier, on peut élargir à une carrière corporate, dont d'ailleurs elles n'ont pas de polarité morale, hein, d'ailleurs c'est pas bien ou mal, hein, de ces carrières-là, c'est juste qu'elles servent des objectifs différents et souvent elles sacrifient toutes la même chose. Donc dans ce type de carrière-là, en fait, on fait en sorte que les gens restent immatures. Donc au sens de la définition que je vous ai donnée un petit peu plus haut, donc pas être capable d'utiliser son intelligence sur la direction d'un autre. Donc elles font en sorte que les gens restent immatures le plus longtemps possible. Parce que, en fait, il faut bien comprendre que quand un rouage a été dans un système pendant trop longtemps, finalement, il peut plus être sorti du système. Si vous sortez le rouage, il doit trouver un autre système, sinon il est inutile, au sens propre. Et le problème, c'est que plus vous avancez dans une carrière corporate, plus vous apprenez... Enfin, dans la même boîte, plus vous apprenez à être le rouage de cette organisation-là, ou de ce type d'organisation-là, si vous alternez entre les grandes boîtes. Et Et alors, vous voyez qu'en fait, c'est pas. D'ailleurs, la maturité intellectuelle n'est pas une condition pour avoir une carrière qui est financièrement lucrative. Vous pouvez gagner plein d'argent en étant un excellent rouage. Mais par contre, il n'y a pas d'immaturité intellectuelle dans l'acte entrepreneurial. C'est pas possible. Ou alors, ça dure pas très longtemps. Et donc, je suis allé chercher la définition de truc tout con, l'intelligence. Et je trouve un truc très simple et très clair. C'est la qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. Et donc, en fait, pour moi, le problème dans tout ça, c'est qu'on confond connaître et comprendre. Vous savez, on dit souvent à l'école que les premiers de classe, ce sont ils sont intelligents parce qu'ils ont des bonnes notes. C'est ça, c'est toujours la même chose. Ah oui, lui, il est super intelligent, il a toujours des bonnes notes au DS de maths. Alors, c'est un raccourci. Bon, il est vrai que les gens intelligents ont souvent des bonnes notes au DS de maths, mais toutes les personnes qui ont des bonnes notes au DS de maths ne sont pas des personnes intelligentes. La plupart des épreuves, et je sais pas si les maths c'est le meilleur exemple, parce que c'est quand même un peu une des deux matières qui nécessite de la réflexion. La seconde, c'est la philo. Une matière de raisonnement. D'ailleurs, c'est mon prof de maths en prépa qui m'avait dit ça. C'est que les maths avec la philo sont les deux seules matières qui sont les matières du raisonnement. Alors, je sais pas si c'était une punchline pour le prof de géopolitique et toutes les autres matières, mais c'est intéressant. Donc voilà, où est-ce que j'en étais? C'est qu'en fait, ce sont des matières que tu peux réussir juste en connaissant la leçon. Et en fait, la phase, il n'y a pas vraiment de réarticulation du savoir comme tu peux avoir en philo. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aussi, il y a plein de premiers de classe, de gens qui sont très bons, mais qui, vous voyez, les premiers de classe, ceux qui ont dominé partout jusqu'en terminale. Donc, moi, la philo, à l'époque, ça arrivait à cette époque-là, je pense que ça m'étonnerait que ça arrive plus tôt. Et ils sont nuls en philo. Ils ont des bonnes notes partout, sauf en philo. Et c'est pour ça. Et en fait, souvent, le mécanisme de défense, d'ailleurs, face à ça, c'est, ouais, la philo, c'est de la chatte. Mais la philo, c'est pas de la chatte. C'est tout sauf de la chatte, la philo. C'est justement, c'est le truc le plus pur qui examine tes capacités de réflexion. Si t'as 7 à tous les DS de maths, c'est pas que t'es un génie incompris, mon pote. C'est que tu sais pas écrire. Tu sais pas réfléchir pour l'instant, et c'est normal. Et je dis ça, j'en ai pris des taux, là, en philo. Mais en tout cas, je suis sûr et certain que je l'ai mérité. j'ai pas dit, ouais, vous savez, c'est de la chatte, la philo. Non, c'est pas parce qu'il y a plusieurs façons d'avoir 20 que ces façons-là d'avoir 20 sont pas méritées. Et même chose pour les 7 sur 20. Voilà, tu peux avoir raté un sujet, c'est tout court, raté la compréhension d'un sujet, parce que ça s'attrape facilement, en fait, hein, les gens qui ont pas compris des sujets. Voilà, donc tout ça pour dire que connaître et comprendre, c'est pas la même chose, et c'est la même chose pour les gens riches. C'est exact. Putain, en fait, l'exemple, il est parfait. C'est quelqu'un qui a une bonne note à un DS, a autant de chances d'être intelligent que quelqu'un de riche. Il y a plein de gens qui sont devenus très riches sans être intelligents. Ça, c'est très dur à comprendre. Parce que c'est un autre raccourci qu'on fait en société. D'ailleurs, c'est marrant parce que je l'ai vu pas mal de fois avec les personnes de télé-réalité. Enfin, j'ai vu des gens parler des personnes de télé-réalité comme ça, qui disent « Oui, mais en fait, Nabila, elle est pas conne. Regarde, elle a plein de business. Et elle est super riche. » Oui, mais ça ne démontre rien, certes. Ok, d'ailleurs, bon, ça peut être une bonne businesswoman. Elle rentabilise bien l'attention qu'elle a générée grâce à ces émissions-là, mais ça fait pas forcément quelqu'un, quelqu'un de mature intellectuellement. Et même d'ailleurs au sein des entrepreneurs, il y a des gens qui sont très immatures. C'est-à-dire, je vous rappelle la définition de la maturité intellectuelle, c'est être capable de faire fonctionner son intelligence sans la direction d'un autre. Et donc il y a des entrepreneurs qui ne sont pas capables. Ceux qui vont sans arrêt chercher, oui, tel gourou, il a dit ça, oui, mais tel mec, il m'a dit ça, et qui, en fait, répètent les idées des autres à longueur de journée, ou vont sans arrêt chercher conseil auprès d'un investisseur. Il y a de l'immaturité partout. Et donc, en fait, moi, être mature intellectuellement, je le lis dans ce sens, qui est arrêter de chercher le chapitre de la leçon qui répond à la question. Quand on vous pose une question, vous n'essayez pas de savoir, OK, c'est quel paragraphe, vous essayez de vous souvenir qu'est-ce que vous avez révisé. C'est comment tu te comportes quand il y a une question qui n'est pas dans la leçon. Vous voyez, la question, les gens disent, ah oui, c'est hors sujet ou c'est hors programme. Il y avait tout le temps ça, au lycée. Une question, et d'ailleurs, j'étais le premier à me plaindre. Hein. Une question qui était, ah oui, pardon, je vous ai fait une question sur la leçon d'après, j'ai oublié. Et là, tu vois qu'en fait, il y avait une personne dans la classe, probablement le mec le plus smart qui a aujourd'hui la plus belle carrière, qui avait quand même essayé de répondre. Et bien voilà, ce mec-là était déjà le plus mature intellectuellement, même avec entouré de tous les immatures que nous étions. C'était pas moi. Voilà. Donc, maintenant, petite mesure là-dessus. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas s'inspirer des réflexions des autres. C'est juste qu'il ne faut pas accepter la direction. Donc, être dirigé par quelqu'un d'autre. Donc, moi, je suis tombé dans cet écueil avec Kodak. Je me suis dit, être intelligent, je suis plus intelligent que tout le monde. Je voulais rien faire comme les autres. Et donc j'essaie de m'inspirer du moins de personnes possibles. Ça, c'est pas être intelligent, c'est même l'inverse, hein, c'est être un petit con. Je l'ai fait sur plein de choses, j'essaie d'inventer la roue partout, j'ai chié sur pas mal de gens qui étaient beaucoup plus loin que moi, dont je disais que j'aurais jamais leur problème. Et donc c'est pour ça que je suis très content aussi d'avoir connu cette fameuse petite difficulté financière lors de la seconde année de Kodak à la fin, entre la seconde et la troisième. C'est parce que ça m'a rendu un peu plus humble là-dessus, dans le fait de me dire que j'étais pas si différent des autres, même si j'avais vocation à construire quelque chose de différent, il y avait quand même toute une partie dont je pouvais m'inspirer chez les autres et que ça me rendait plus intelligent en fait. Et en fait, voilà, c'est quand même, moi je trouve que par défaut, même une personne qui ne connaîtrait pas la définition de la maturité intellectuelle est capable de voir que quand quelqu'un vous dit « bon, j'aimerais bien aller dans cette direction, ça m'excite, mais j'ai telle personne qui assez sagement m'a alerté de quelques risques », donc cette personne est capable de pas s'engager dans cette direction parce qu'elle a été alertée par quelqu'un d'autre. C'est la définition de la sagesse, d'ailleurs, vous savez, on a fait une pendule dessus. Hein. La personne intelligente apprend de ses erreurs, la personne sage apprend des erreurs des autres. Eh bien, je trouve que quelqu'un peut qualifier ça facilement de mature. Voilà. Et donc, pour poursuivre un peu cette réflexion, je suis allé chercher l'étymologie. Vous savez qu'il y a énormément de choses à apprendre dans les étymologies. C'est ma découverte avec les pendules à l'heure et avec ce podcast de manière générale depuis quelques épisodes. C'est que je trouve, en fait, plein d'explications ou de suites de réflexions en allant mater le latin, quoi. Alors que j'ai pas fait de latin. Mais à l'époque, j'aurais pas compris, je pense. Donc, l'étymologie de l'intelligence dérive du nom latin. Intelligentsia, lui-même issu du verbe intelligere, ce dernier qui se traduit par comprendre, saisir, apprécier, est composé du préfixe inter et du verbe legere qui signifie ramasser, recueillir ou choisir. Donc l'intelligence, c'est recueillir. Qu'est-ce qu'on recueille ? Eh bien, on recueille l'intelligence des autres. Voilà. Et c'est ça qui crée l'intelligence. En fait, chaque intelligence d'un humain au bout d'une lignée est basée sur l'intelligence des gens d'avant, normalement, si t'es pas trop con. Et en ce sens-là, en fait, c'est possible d'être mature intellectuellement tout en ayant fondé son savoir sur l'intelligence des autres. C'est ça qui est génial. C'est justement, je pense que de manière générale, les gens les plus intelligents, et je pense beaucoup aux philosophes, écrivains et tout, enfin ceux qui sont socialement reconnus comme étant assez intelligents, souvent c'est les gens qui ont le plus lu, qui ont le plus étudié ce qui s'était passé avant, les gens qui comprennent bien l'histoire et tout. On dit que ce sont des gens intelligents parce qu'ils ont énormément de données pour évaluer les faits d'aujourd'hui, qu'ils ont étudié le passé, et ensuite ils sont capables de faire des parallèles, de comprendre, de mettre en lien. Et je pense que d'ailleurs, si j'avais prolongé un peu la recherche sur l'étymologie, il y aurait certainement quelque chose dans l'intelligence qui est la faculté de mettre en lien. Mais bon, je suis pas... Comment est-ce qu'on dit Non, c'est pas hélénologue. Bon, ça apporte pas grand-chose. Bref, personne qui a étudié le latin. Voilà, et donc moi je trouve que ça se prolonge assez facilement, cette définition-là de l'intelligence, dans le fait de prendre des extraits d'intelligence hors de votre secteur. Donc vous faites du business, vous faites du marketing, je sais pas quoi, et vous êtes capable d'aller lire un bouquin d'histoire et d'aller trouver quelque chose que vous allez être capable de réadapter. Si vous n'êtes pas capable de le faire, ça veut dire que probablement il vous manque encore cette capacité-là à mettre en lien, à recombiner, et qui est souvent, en fait, ça montre que vous n'avez pas forcément compris ce que vous étiez en train de faire. Et souvent, quand vous comprenez les trucs, vous êtes capable de comprendre ce qui est similaire dans les autres disciplines que vous comprenez. Donc quand vous comprenez deux choses différentes, donc l'histoire et la vente, par exemple, eh bien, vous pouvez faire des parallèles qui sont super. C'est pour ça que les gens curieux, souvent, c'est très rare d'être curieux et de ne pas devenir mature intellectuellement, je trouve. Voilà, donc parce que ça montre la compréhension et donc l'intelligence. Donc en fait, voilà. Il y a un truc aussi, c'est qu'en business, je vous l'avais déjà dit, mais tout le monde lit les mêmes bouquins. Et ces bouquins-là, pourquoi est-ce que les gens disent qu'ils sont intelligents ? C'est parce qu'ils souvent, ils ont fait ce travail de théorisation, de prendre d'autres domaines sur lesquels la leçon n'était pas facile à tirer, et ils voulaient packager bien proprement dans un bouquin qui vous ont appelé 107 lois sur comment devenir riche, ou un truc similaire. Et en fait, voilà, vous avez sous-traité l'intelligence à quelqu'un d'autre. Mais vous pouvez aussi vous-même faire ce travail de prendre quelque chose qui vous est donné de façon un peu plus brute et de faire votre propre interprétation. C'est aussi pour ça que c'est très cool. D'ailleurs, je suis allé voir la semaine dernière la sortie d'un... J'ai un client qui s'appelle Les Others, qui est un podcast que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Les Baladeurs, et qui, pour ouvrir la saison 7, avait réservé un cinéma, mais pour écouter un podcast. Donc on recevait un petit pack au début pour s'installer dans le cinéma avec un cache-œil. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, un masque. Un masque pour dormir. C'est plutôt ça. C'est pas un cache-œil. Cache-œil, c'est un peu pirate. Et donc j'ai emmené ma mère, qui est très fan du podcast là-bas, donc on a passé la soirée là-bas, et il disait au début que ce masque-là, c'est très important de l'avoir, parce que ça va vous permettre, en n'ayant pas la vue, de voir ce que vous entendez d'une façon qui vous est très spécifique. Et donc, on était 300 dans la salle, il y avait probablement 300 images mentales différentes. Et je trouve que c'est la meilleure métaphore pour expliquer l'intelligence. C'est, en gros, on vous donne quelque chose qui est brut, dans lequel volontairement on va retirer la leçon, la conclusion à la fin, le qu'est-ce que vous devrez faire, en fait, le comment, et on va vous laisser faire votre propre interprétation. Et donc là, ce qu'on travaille en faisant ça, c'est votre intelligence, c'est pas votre faculté à répéter une consigne. Et je me rends compte que c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup de mal à faire des épisodes de podcast sur comment, tuto, faites ci, faites ça, faites ci. Alors déjà, ça me fait chier parce que ça demande un peu plus de travail, c'est pour ça que les bouquins prennent autant de temps à écrire, d'expliquer comment, de faire le tutoriel. Et aussi, c'est parce que, en fait, je pense que je vous rends un service. En tant que grand flemmard que je suis, je vous rends un service. Je vous laisse faire votre propre interprétation de ce que je dis. Et je trouve que quelqu'un de mature est justement capable de demander, là où les autres demandent comment, lui va demander pourquoi. Et donc je vous donne pas du tout chaud là-dessus. Voilà. Et donc c'est une caractéristique, tout ça pour dire pourquoi est-ce que je vous en parle, c'est parce que c'est une caractéristique, pardon, entrepreneuriale, qui est très importante pour être capable d'innover. C'est innover en s'inspirant. Voilà. Il y a un très bon titre du newsletter que je lis beaucoup, qui est Farnham Street, qui dit The best of what others have already figured out. Donc le meilleur de ce que les autres ont déjà trouvé. Voilà. Donc c'était ce petit point sur l'immaturité intellectuelle. Voilà. Rien de plus à ajouter, je prends une petite gorgée et je passe à la seconde qui est ne pas se perdre dans le monde des idées. J'allais dire comment, mais non. On ne parle pas de comment ici. Pourquoi il ne faut pas se perdre dans le monde des idées. Donc en gros, c'est le prolongement un petit peu de l'idée de surperformance. Donc j'avais parlé dans un épisode, alors je vais regarder parce que j'ai la liste là, du coup, le piège de la surperformance, c'est le chapitre 34. Donc dans le chapitre 34, vous pourrez aller l'écouter après cet épisode, vous pouvez le mettre dans le fil d'attente, si jamais vous ne l'avez pas encore écouté. J'explique un petit peu quels sont les écueils et les souffrances qui viennent du fait de pousser trop loin et de ne pas mettre de ligne d'arrivée au fait d'être performant. Et qui définit si quelque chose est une discipline de haut niveau. Donc, si vous allez être un athlète de haut niveau du secteur que vous allez traiter, ou alors un hobbyiste. C'est-à-dire, ça va être votre hobby. Donc, le problème une autre conséquence de tomber dans le piège de la surperformance, c'est de sans arrêt chercher des nouvelles façons d'être meilleur, c'est que ça t'emmène parfois dans le piège du monde des idées. C'est un piège qui arrive souvent aux entrepreneurs parce qu'une aventure entrepreneuriale, finalement, quand tu la simplifies, c'est une succession de problèmes auxquels tu cherches une solution. Et donc, tu vas avoir des idées que tu vas proposer pour résoudre ce problème. Il y en a qui vont marcher, d'autres qui vont pas marcher. Et ça va déterminer, selon la taille de l'opportunité sur laquelle ces problèmes ont lieu, finalement, la taille de ta boîte, sa valuation, son revenu, etc. Et tout. Et donc, à quel point est-ce qu'elle va grossir. Et il y a un problème qui vient souvent avec ce type de personnes-là. Donc, les personnes qui travaillent beaucoup, d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui est propre aux entrepreneurs. Ça marche aussi avec les gros cadres d'entreprise. C'est que plus tu réfléchis, plus c'est dur d'être présent dans le moment. Et donc, c'est très rare, en fait, d'avoir des personnes qui sont très professionnelles et qui, à la fois, arrivent à s'amuser, arrivent à vraiment à lâcher, à être très présent. Et c'est pour ça qu'avoir des enfants, c'est très utile. C'est parce que ça permet à des personnes qui étaient très focus sur leur carrière, qui n'avaient pas forcément, qui tiraient le max de sens de ce pan-là de leur vie, je trouve, c'est de trouver du sens ailleurs. Et donc, en fait, de faire quelque chose pour le moment. C'est juste pour partager des moments avec leurs enfants. C'est fréquent d'entendre des parents dire ça. Alors, je ne suis pas parent, hein. Mais je l'ai beaucoup constaté. Et je trouve ça cool. Donc voilà, c'est très dur d'être présent. Je vous avais aussi fait une pendule. Alors, je sais plus dans quel épisode c'était celle-là, sur apprendre à jouer. Je trouve que c'est quelque chose dans lequel, en fait, t'es tiré dans une direction inverse quand t'es entrepreneur. C'est justement, l'inverse de jouer, c'est être super sérieux surtout, pas laisser la place au jeu et, en fait, pas s'amuser. C'est très dur et je trouve que c'est pas quelque chose qui est souhaitable. On pourrait se dire, en fait, plus t'es sérieux, plus ta boîte elle va avancer. Et finalement, quelle est l'importance de s'amuser? En fait, l'importance de s'amuser, d'être présent dans le moment, c'est que ça te permet justement de profiter des moments que cette réussite professionnelle va te permettre de vivre. Et en tout cas, moi, dans ma conception de ce que j'ai envie de construire, il y a une grosse partie qui est de profiter de ce que j'ai construit. sinon, je pense que vous comprenez aisément comment l'idée se défait elle-même logiquement. Et donc, c'est l'inverse d'être dans le moment. Quelque chose d'un peu méchant à l'égard des... Bon, c'est trop tard. Quand j'ai eu l'idée, je suis obligé de vous la partager. Je pensais beaucoup aux devs qui ont cette qualité en commun avec moi d'être un peu introverti et qui rend... Je vous laisse imaginer l'image d'un dev ou d'un codeur dans une soirée. Souvent, c'est pas la personne qui déconne le plus. Ce qui n'a pas, encore une fois, de valeur morale. c'est pas bien, c'est pas mal. C'est juste un constat, c'est que quand tu as passé la journée à parler à ton ordinateur, à faire des trucs très sérieux, et je pense que vous en rendez compte aussi quand vous avez une journée professionnelle très intense, vous mettez un peu de temps avant de décompresser, de réussir à aller vous amuser et aller en fait profiter d'une activité qui n'a pas d'autre but qu'elle-même. En fait, vous vous dites non, mais ça sert à rien, je pourrais être en train de travailler et tout. Et bien, quelqu'un qui travaille beaucoup, en fait, il travaille tellement qu'il a jamais le temps d'avoir l'effet de comment est-ce qu'on dit de je ne veux faire que des choses utiles. Je sais pas si vous arrivez à suivre ce que je dis. Et il arrive jamais à avoir cet effet qui s'estompe. Donc il travaille 12 heures par jour. Ça lui prend, je sais pas, 2 heures de lâcher prise avant de pouvoir potentiellement, je sais pas, apprécier un festival, un dîner sans penser à son travail. Et en fait, comme il travaille énormément et comme il y pense tout le temps, et ça c'est le propre des entrepreneurs, c'est que même quand ils travaillent pas, ils pensent à leur taf. Eh bien, et finalement, il arrive jamais à profiter du moment présent. Il est toujours dans un autre moment dans sa tête. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que j'ai lu encore une fois une autre citation d'Emmanuel Kant qui dit la chose suivante. Donc cette fois-ci, c'est dans Critique de la raison pure. La raison humaine a ce destin particulier qu'elle est accablée par des questions que, comme prescrites par la nature même de la raison, elle ne peut pas ignorer, mais auxquelles, comme transcendant tous ses pouvoirs, elle ne peut pas non plus répondre. Je vous la relis une fois. La raison humaine a ce destin particulier qu'elle est accablée par des questions que, comme prescrites par la nature même de la raison, elle ne peut pas ignorer, mais auxquelles, comme transcendant tous ses pouvoirs, elle ne peut pas non plus répondre. Donc ce sont des questions qu'on ne peut pas ignorer, mais auxquelles on ne peut pas répondre. Je pense que vous voyez tous, on a au moins tous ces questions-là qu'on se pose depuis des années auxquelles on n'a pas trouvé de réponse. La plus classique d'entre elles est hein, qu'est-ce que le bonheur? Et en fait, finalement, vous avez déjà la réponse. C'est qu'il faut arrêter de chercher la réponse à ce truc-là. Si tu passes trop de temps à chercher qu'est-ce qui te rend heureux, enfin qu'est-ce qui rend heureux, qu'est-ce que le bonheur, etc. Finalement, tu passes à côté du bonheur lui-même, qui est de pas passer sa journée. Au moins, c'est sûr que passer sa journée à se poser cette question-là, c'est pas quelque chose qui va te rapprocher qui va te rendre très heureux sur le long terme. Donc, il faut être à la fois capable de réaliser que vous posez ces questions-là et d'accepter de ne pas y trouver des réponses. Parce que le problème du monde des idées, c'est que parfois, ça mène à la paralysie. Je vous en parlais je vous disais que j'avais eu des mouvements un peu de brouillard mental, où je savais pas trop dans quelle direction aller. J'étais un peu paralysé par le fait que j'arrivais pas à trouver une idée qui me plaisait. Et ça peut durer très longtemps, ces trucs-là. Et ça dure, vous savez, il y a plein de gens, le phénomène classique, c'est une personne qui a un CDI quelque part et qui sait qu'il veut devenir entrepreneur, mais qui attend la bonne idée. Ça, c'est un mindset dont la première étape pour devenir entrepreneur, c'est de le détruire. C'est ne pas attendre d'avoir une idée, c'est de détruire ce mindset que tu as besoin d'avoir une idée pour avancer. Parce que quand tu réfléchis trop en problème, je trouve que la meilleure métaphore, c'est à chaque fois, j'imagine quelqu'un qui essaie de mettre un vélo à l'arrêt en équilibre. Donc le vélo est fait pour, en fait, il tient en équilibre que s'il avance. Mais vous êtes arrêté en train d'essayer de faire tenir le vélo et vous faites « Ah non, ça tombe d'un côté, ça tombe à droite. Et si je le penche un peu plus à gauche, ah non, ça tombe à gauche. » Et donc finalement, vous vous dites « Bon, j'avancerai que quand le vélo, il tiendra droit. » Mais en fait, le vélo ne tient droit que s'il est en mouvement. Et je vous l'avais dit, l'action produit de l'information. C'est exactement la même chose. Il faut créer du mouvement. Si vous êtes paralysé, il faut créer du mouvement. Et je pense que c'est là où le mental et le physique communiquent. C'est que le mouvement, souvent, que vous allez créer, ça va être du mouvement physique. Vous avez... quand vous n'arrivez plus à réfléchir à quelque chose, vous allez marcher. Ou vous allez faire du sport. C'est pour ça que c'est aussi stylé le sport. J'en reparlerai juste après. Mais en fait, c'est l'action nourrit la réflexion et la réflexion nourrit l'action. Mais souvent, il y a plus de gens qui... Enfin, les gens pensent à tort, mais ça a été véhiculé par l'école, qu'il faut d'abord réfléchir à quelque chose pour mettre en place une bonne action. Malheureusement, entrepreneurialement parlant, c'est pas que ça qui fait avancer les choses, c'est précisément ça qui explique que personne n'avance. Voilà. En fait, c'est un peu un paradoxe qui est que, on résout rarement le fait d'être trop dans sa tête, un problème d'être trop dans sa tête, en réfléchissant plus fort à un problème. Je suis trop dans ma tête, donc je vais être encore plus dans ma tête dans le but de sortir de ma tête. Mais en fait, je vais être encore plus dans ma tête. Bon, bah oui. Ne t'attends pas à trouver une solution, fais-toi de la branlette intellectuelle autant que tu veux. Mais moi, je te conseille plutôt d'aller marcher. Voilà. Donc, le truc qu'on peut se dire suite à ça, c'est bon bah écoutez, si je faisais l'inverse, et si j'arrêtais d'être dans le monde des idées et que je me nourrissais d'actions, en fait, de choses qui n'ont d'autre but qu'elles-mêmes. Donc concentrons-nous sur le chemin finalement, puisque le bonheur est un chemin, pas une destination, n'est-ce pas? Si vous êtes un long auditeur du podcast depuis très longtemps, vous savez très bien que le chemin n'a pas de sens sans la destination, donc vous connaissez la réponse. Vous savez que je suis en train de dire une connerie volontairement pour pouvoir la démonter juste ensuite. Bon bah c'est de la merde. Parce que l'inverse n'est pas souhaitable non plus. L'opposé, en fait, d'être dans le monde des idées, c'est d'être dans l'immédiat tout le temps. Donc, ne pas être dans sa tête, être que dans le pratique, que dans le réel tout le temps. Et donc là, j'ai une petite citation que j'ai trouvée dans un article de Ted Gioia, une newsletter super suivie d'ailleurs aux US, que j'ai découvert, qui s'appelle L'état de la culture, et qui parlait du petit problème qu'on a, enfin de notre ère, qui est les addicts à la dopamine, et qui dit « Plus les addicts s'appuient sur ces stimuli, donc en référence à ces stimuli TikTok, tout le bordel là, moins ils éprouvent de plaisir. À un certain stade, ce cycle crée de l'anédonie. » Alors, je connaissais pas le mot. Donc, c'est-à-dire l'absence totale de plaisir dans une expérience censée être recherchée pour le plaisir. Les toxicomanes continuent à rechercher le stimulus, mais davantage pour éviter la douleur de la privation de dopamine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous concentrez que sur le chemin, à la fin, vous ne prenez plus de plaisir au chemin. Voilà, bref, c'est classique. C'est l'adaptation hédonique, ça s'appelle comme ça. Donc, c'est dans ce sens-là, anédonie d'ailleurs. Putain, je viens de capter. Anédonie, c'est-à-dire, ok. Vous comprenez, donc c'est l'inverse. Ça veut dire que finalement, en fait, tu n'arrives plus à prendre de plaisir dans les choses qui te procuraient du plaisir. Et c'est pour ça que tous les gens qui se disent, si jamais j'arrête mon travail, en gros, si je gagnais plein d'argent et que j'arrêtais mon travail, qu'est-ce que je ferais? Je regarderais Netflix toute la journée. Non. Parce que, justement, phénomène d'anédonie, tu ne prendrais plus de plaisir à regarder Netflix du tout, très très vite. Donc c'est pour ça que finalement, on est un peu condamné au travail. Voilà, et que ça a beau venir de tripalium, qui est la souffrance, la torture, il en faut quand même une dose normale, et c'est surtout aussi une invitation que je découvre en même temps que je vous fais cette explication, qu'il faut tolérer de la souffrance dans sa vie, et que c'est un petit peu le sens, finalement, je pense, d'une aventure. C'est comme ça qu'on trouve du sens, et en creusant un petit peu dans la direction de la souffrance, ce qui est paradoxal, et c'est pour ça que plein de gens sont malheureux, c'est parce qu'ils ne veulent pas s'imposer ce genre de choses. Là, voilà, je vais pas trop faire le gourou du dev perso, ça n'est pas un podcast sur le sujet. Donc, l'opposé n'est pas souhaitable. On va pas non plus sortir du monde des idées pour aller dans le monde de l'hédonisme. Ça pue le cul. Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, moi, je vous conseille, et je vais vraiment vous donner un conseil, c'est de faire des allers-retours. Vous faites des allers-retours entre le chemin et la redéfinition de la destination, disons. Et en fait, si on veut faire vraiment de l'enculage de mouche, on peut faire de la méta. Finalement, votre chemin, c'est ça. Votre chemin, c'est un aller-retour. C'est ça. Donc, c'est... par exemple, vous allez pousser la réflexion des idées. Enfin, moi, j'essaie de faire ça. De pousser la réflexion des idées que dans la mesure où je sais que elle va avoir un impact sur le monde réel. Les amis, on n'est pas des philosophes. On n'est pas des scientifiques. On s'en fout de savoir si quelque chose est vrai, n'a pas d'objection. C'est pas important. Soit on connaît la réponse à quelque chose. Il y a des choses assez évidentes auxquelles qu'on ne discute plus. Soit on n'est pas trop sûr et donc on choisit le plus utile. Et l'exemple que je prends tout le temps, et je pense que je l'ai déjà pris dans des épisodes précédents et je m'en souviens plus, c'est: est-ce que vous pensez que les gens, de manière générale, sur cette planète, sont bien intentionnés ou mal intentionnés? Alors, non seulement c'est très dur, c'est très dur à vérifier. Et donc, pour moi, c'est un choix de croyance, ça. C'est pas un choix de véracité. Vous pouvez pas choisir l'option vraie parce que vous la connaissez pas, donc vous êtes obligé de choisir celui. Vous êtes obligé d'en choisir un. Et donc, moi, je vous dis que celui que je choisis de choisir, moi, dans cette situation-là, c'est celui qui va m'apporter le plus de bonheur sur mon chemin. Donc, je choisis de me dire, je pense que les gens ont un bon fond. Et c'est dur à croire tout le temps, on trouve plein de raisons de pas y croire, avec vos données empiriques. Et je peux très bien comprendre qu'une personne qui ait vu l'inverse chez les gens, croit l'inverse. Et je ne le juge pas là-dessus. Je dis juste que, franchement, croire que tout le monde est mauvais, j'ai l'impression que ça rend aigri. J'ai pas envie d'être quelqu'un d'aigri. Voilà. Donc, n'oublions pas que les idées sont censées accélérer la progression et pas l'inverse. Donc, à partir du moment où une idée te paralyse, elle n'accomplit pas son objectif pour toi qui n'es pas un philosophe. Ton travail, tu ne vis pas dans le monde des idées, tu vis dans le monde réel. Peut-être que vous êtes philosophe, si vous écoutez ce podcast, auquel cas vous pourrez juger avec plaisir tout ce que je raconte, comme totalement partiel, comme réflexion, mais je m'en branle. Donc, pour sortir du monde des idées, je vous conseille une autre chose, je vous l'ai dit un petit peu avant, c'est vous mettre en mouvement. Donc, la façon la plus efficace de se mettre en mouvement, c'est le sport. Un esprit sain dans un corps sain prend tout son sens à ce moment-là. Voilà. Et donc, apprenez à jouer. Jouer, je vous renvoie à l'épisode dans lequel je parlais du jeu. Et je vais essayer de me souvenir, c'était quand? Je pense que c'était... Allez, je vais dire chapitre 36. Le bon juge ne juge pas. C'est sûr qu'en tout cas, c'était après le manifeste. Donc, c'est soit dans le... Blitzkrieg, soit dans le 36, donc 35 ou 36, voilà. Donc vous pourrez le mettre encore une fois dans la file d'attente. Voilà, et la troisième chose, c'est pour survivre à cette surintellectualisation, apprenez à décider. Alors décider, c'est par opposition à choisir. J'en ai parlé dans la vidéo sur la game théorie, vous pourrez la regarder aussi si vous voulez, je vous donne vraiment beaucoup de devoirs là. Donc décider, c'est Agir avant de savoir. Et choisir, c'est savoir avant d'agir. Et donc, je vous l'ai dit, l'action produit de l'information. L'outil pour mettre un terme à la paralysie, c'est d'accepter justement d'agir quand vous n'êtes pas sûr de la chose sur laquelle vous allez agir. Donc, ma conclusion, c'est quoi? C'est là-dessus, il faut avoir les deux modes. Ne pas se perdre dans le monde des idées, mais ne pas non plus se perdre dans le monde de l'hédonisme et de l'expérience sans destination. Voilà. Et donc, apprenez à trouver votre... Alors, c'est un peu cliché, j'aime pas trop les résolutions comme ça d'idées. Le juste milieu. C'est, vous savez, c'est le truc où vous concluez... Moi, je concluais beaucoup de dissertations comme ça. Alors, beaucoup en anglais quand il fallait faire des essais. Et parce que je me souviens, je le disais, c'était un peu mon expression que je calais. Vous savez comment on met du vocabulaire dans les rédacs. We have to strike a balance to find a happy medium. J'en avais deux. Je les mettais à chaque fois et ça fait la punchline de fin. Mais comme toute réponse, enfin, si une réponse marche pour toutes les questions, c'est qu'en fait, bon, c'est pas une réponse. Voilà, pendule numéro 3. Comment t'es-tu retrouvé dans cette situation? Donc, j'ai sorti une vidéo sur le poker, les amis. Je vous parle toujours de la même, c'est celle sur la théorie des jeux. Et j'ai oublié de parler d'un truc. Bon, parce que c'était il y a un an. J'ai oublié de parler de plein de trucs. et c'est ce fait-là, justement. C'est qu'est-ce qui t'a amené dans cette situation? Vous allez comprendre juste après. Donc, vous savez, on loue souvent les entrepreneurs sur leur faculté à prendre des décisions difficiles. Mais en fait, il faut pas quand même prendre un peu de hauteur là-dessus et se rendre compte que, en fait, c'est pas normal d'avoir à prendre des décisions difficiles. C'est le symptôme, en fait, qu'il y a eu un mal quelque part. Quelque chose a été mal fait et qui t'a amené dans une situation où tu dois prendre une décision difficile. Il y a une erreur quelque part qui a eu lieu avant. Et bon, modulo la chance, hein. Parfois t'as pas eu de chat, c'est tout, t'as une décision difficile à prendre, c'est tout. Mais si tu as beaucoup de décisions difficiles à prendre au quotidien, c'est probablement que tu as merdé quelque part avant. Et donc l'exemple classique, c'est quand tu hésites à garder quelqu'un dans ton équipe que tu as recruté, et ça t'arrive souvent, t'es souvent en train d'hésiter à est-ce que je renouvelle ou pas la période d'essai, je sais pas quoi, c'est qu'il y a une merde au niveau de ton process de recrutement, il y a une merde quelque part, ou alors dans ton onboarding, il y a quelque chose qui merde avant. Et donc l'erreur, pour plein de personnes, c'est de se dire que ce problème qui arrive sur leur bureau, qui nécessite une décision difficile, s'arrête lorsque la décision difficile a été prise. Ce n'est que le début. C'est comme traiter un symptôme versus traiter la maladie. Et donc ce truc-là, en fait, est très important parce qu'il m'a été conceptuellement amené à l'esprit par le poker. Et notamment, je regardais beaucoup Dans la tête d'un pro sur Winamax, dans lequel il y avait, je me souviens de certains passages de Davidi Kitaï, que vous connaissez peut-être, qui est un joueur belge, qui est très connu pour les rides qu'il arrive à faire sur ses adversaires. Il fait peur à beaucoup de gens qui sont en coup contre lui parce que les gens se cachent en fait contre lui, ils cachent leur carotide, ils ont peur qu'il arrive à voir dans leur jeu. Et lui, il dit régulièrement, je prends telle décision au flop, donc le flop c'est le premier tirage de cartes, poker, pour ne pas me retrouver dans ce genre de situation au turn. Donc le turn c'est le coup d'après. Et en fait ça c'est plus profond qu'il n'y paraît. Parce que ça s'appelle du raisonnement de second ordre. Ça fait que parfois, je pense que ça pourrait être une décision. J'hésite entre deux décisions. Mais il y a une décision qui risque de me mettre dans une situation où je vais devoir prendre une décision difficile derrière. Ça va me faire des nœuds au cerveau et ça va être très dur. Et on ne veut pas être en fait dans ce genre de situation. Le but, justement, je pense qu'une personne qui prend des bonnes décisions, elle fait en sorte de les prendre assez vite et assez tôt pour ne pas avoir des décisions difficiles à prendre, pour en avoir le moins possible. Et donc, voilà, vous voyez ce que c'est. Le raisonnement de second ordre, c'est réfléchir à qu'est-ce qui va se passer après. Donc, si je prends telle décision, quelles vont être les conséquences de cette décision avant que je la prenne? Ça, c'est raisonner un niveau plus loin que tout le monde. Et en fait, au poker, là où c'est très dur, c'est que parfois, il y a des raisonnements de second ordre contre des raisonnements de troisième ordre. Donc, je vais faire ça. Si je fais ça, il va faire ça. Donc, le mec en face, mais sauf que lui, il sait que je suis en train d'avoir ce raisonnement que je suis en train d'avoir, donc il va se mettre un niveau au-dessus. Et vous essayez de savoir, en fait, où l'adversaire se situe en termes d'ordre de réflexion. Et ça donne, en fait, des batailles intellectuelles au poker qui sont hyper intéressantes. Je sais que ce joueur dans telle situation il a déjà fait ça, et le mec en face de toi il dit ah je sais qu'il va penser que je vais faire ça, et ouais, et là ça devient dur là, mais c'est assez rare parce que de manière générale ça se produit pas tout le temps en fait, c'est beaucoup plus mathématique que ça, mais ça donne des coups, enfin c'est ça les highlights quoi, c'est les coups qui sont dans les best-of. Donc c'est une invitation déjà à raisonner en second ordre, mais c'est aussi une invitation à faire l'inverse. Quand vous êtes dans une situation de merde, vous remontez le temps et vous vous dites comment est-ce que je me suis amené dans cette situation. Vous remplacez la recherche d'une solution par l'analyse de la causalité. Qu'est-ce qui a causé cette situation de merde que je suis en train de voir? Mais pourquoi est-ce que je suis en train d'hésiter sur cette personne? J'arrive pas à me faire un avis sur elle, si je veux la garder ou pas dans l'équipe. Peut-être que j'ai pas fait la prise de référence pendant le process de recrutement, qui est un truc et une erreur monumentale. Et qu'on fait... C'est dingue, parce que tu peux le savoir et quand même le faire, ce truc-là. Et en fait, le but, c'est de traiter ce truc-là pour ensuite avoir une seconde next step qui est comment je fais en sorte de ne plus jamais être dans cette situation, dans cette même situation dans le futur. Et donc, tu apprends beaucoup plus comme ça. Et là, c'est un exemple classique en agence aussi, c'est qu'il y a pas mal d'insatisfaction client, pas mal de clients qui gueulent, qui sont liés à des problèmes qui ont lieu bien avant. Donc, soit pendant la vente, donc vous avez onboardé un client que vous n'aurez pas dû onboarder, qui n'était pas exactement dans les use cases classiques, boum, ça finit par se péter la gueule. Et en fait, quand ça se pète la gueule, on cherche des solutions. Oui, qu'est-ce qu'on a mal fait dans l'accompagnement, je sais pas quoi. Ben non, en fait, non, t'as laissé rentrer quelqu'un qui aurait jamais dû rentrer. Ou alors t'as raté un onboarding. Peut-être que tu l'as déçu ou tu t'es pas montré digne de confiance dans les premières semaines. Et donc finalement, le truc te pète dans la gueule 3 mois plus tard. Et tu te souviens plus qu'en fait, ce mec-là, il a perdu ta confiance. Non, t'as perdu sa confiance. Au tout début de la collab. C'est très dur. Et c'est pour ça qu'il faut être, il faut agir le plus vite possible et être le plus radical dans les décisions. J'ai fait un petit reel là-dessus sur la radicalité en entrepreneuriat. On dit, vous savez, easy decisions, hard life, hard decisions, easy life. Bon, bah, c'est exactement l'application de ce truc-là. C'est pour ça qu'il faut être radical et pas avoir peur très tôt dans une situation de prendre quelque chose une action forte pour ne pas être dans des situations difficiles par la suite. Voilà, donc bien différencier le symptôme du mal qui a généré le symptôme. Voilà, et donc ma conclusion, c'est quoi? C'est que c'est plutôt l'inverse, en fait. Les entrepreneurs incroyables, ils rendent la prise de décision facile. C'est des gens qui savent tellement dire non à tout ce qui est défocus, qui ont une culture de boîte qui est tellement claire, qui ont une vision d'entreprise qui est tellement claire, que toutes les décisions sont faciles. Et ça, waouh! Ça, et en fait, pas mal de on peut même en fait conclure là-dessus, pas mal des raisons qui expliquent qu'une décision soit difficile, c'est un manque de clarté. Vous ne savez pas avec quel principe prendre la décision. Et quand la culture de Bosch, pour moi, c'est une de ses principales utilités, c'est que ça donne un code de conduite qui peut avoir, en fait, peu importe que ça donne une bonne ou une mauvaise raison, au moins tu sais quoi faire. Et si la décision que tu prends en suivant ta culture de boîte n'apporte pas le résultat que tu veux, bon bah tu sais quoi remettre en question. Il y a un problème avec la culture de boîte. Et ça en fait voilà, c'est une invitation à la clarté souvent, les décisions difficiles. Voilà. Donc c'était la pendule numéro 3. Comment vous êtes-vous retrouvé dans cette situation? Et n'oubliez pas de faire le chemin inverse, remonter les idées. Pendule numéro 4, l'autoflagellation. À quoi ça sert? Bon. Je vous documente, hein. De toute façon, moi, à chaque fois que j'ai des petits passages à vide sur le taf, le sport, intellect, pas quoi. Et donc, j'ai régulièrement quelques petits jours, vous savez, hein, ça arrive à tout le monde, hein, des petits jours où l'humeur n'est pas là, l'envie, vous n'êtes pas motivé, bon, ça arrive à tout le monde. Alors, petit truc qui n'est pas censé être d'ailleurs dans les pendules, mais je me rends compte en parlant que je voulais vous le partager. J'ai dit peut-être par erreur dans un podcast précédent qu'il fallait, quand vous n'êtes pas bien, attendez un peu et attendez voir que ça passe. Ça, en fait, ça marche pas du tout. ça marche pas du tout. Parce que, alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas paniquer, faut pas prendre une décision hâtive quand vous êtes pas bien, genre de dire, ah, mon taf me plaît pas, ouais, ouais. Enfin, ne pas prendre pas faire des surinterprétations. Mais ce qui va vous sortir d'un rut, comme on dit en anglais, c'est une action dans un sens. Et souvent, on en revient à la maturité intellectuelle, faut créer du mouvement. Voilà. Et donc, pour revenir sur l'autoflagellation. Donc, vous savez, le dilemme du haut performeur, c'est d'être à la fois dur avec soi-même, mais aussi d'être son meilleur pote, pour s'encourager. Et donc souvent, tu dois être dans une situation, tu t'es amené à faire l'un ou l'autre. Donc tu as raté une séance à la salle, et là, il y a deux interprétations possibles. Est-ce que tu te dis, oh, putain, je suis une grosse merde d'avoir raté la séance, il faut que je revienne le plus vite possible? Ou est-ce que tu te dis, bon, mon gars, tu as raté une séance, c'est pas grave, il faut que tu t'y remettes, je suis ton meilleur pote, vas-y, je te soutiens, voilà, être indulgent. Et en fait, le dilemme, il n'est pas facile. Vous avez peut-être, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas A ou B. Et en fait, justement, il y a une finesse que j'ai saisie la semaine dernière. Je pense que j'ai résolu ce dilemme. Je sais dans quelle situation il faut faire preuve de l'un ou de l'autre. Ça dépend du coefficient directeur. Alors, je vous ai fait, c'est une pendule qui date d'il y a longtemps sur le coefficient directeur des gens. Donc, est-ce que les coefficients directeurs d'une droite, vous voyez, c'est sa pente. Coefficient directeur de 1, la droite, elle monte. Coefficient directeur de -1, la droite, elle descend. Les gens ont tous des coefficients directeurs. Qu'on peut même sectoriser. Tu peux avoir une santé qui descend, mais une carrière professionnelle qui s'améliore. Mais de manière générale, ils ont tous des coefficients directeurs dans une type de pratique. Donc là, je vais prendre le sport en particulier. Donc, tu as raté une séance de sport, je ne sais pas quoi. Donc, ton attitude, si ça va être l'autoflagellation ou l'indulgence, va dépendre de quel est ton coefficient directeur. Donc, quand tu as un coefficient directeur négatif, être dur avec toi-même, en fait, ça te fait abandonner. Quand tu as déjà raté deux séances et que tu commences à dire « je suis une merde », donc tu ne te mens pas, ça va rarement produire l'effet de te remettre dans le bon sens. En fait, ça accentue la pente. En le comprenant dans ce sens-là, ça m'a vraiment éclairé. Donc quand tu es en phase descendante, il faut surtout pas faire d'autoflagellation. En tout cas, avec moi, ça marche pas. Ça n'a pas du tout marché, ça m'enfonçait encore plus. Je me disais que je suis une merde. Et en fait, chaque instant entre j'ai raté ma séance et la prochaine séance que je vais peut-être faire est une confirmation que t'es une merde et que t'es toujours pas retourné à la salle, t'as pas fait les trucs que tu devais faire. Et ce sentiment est très désagréable et en fait pousse pas vraiment vers l'action. Ça marche pas dans ce sens-là. Et tandis qu'en fait, être indulgent, ça va permettre de faire un truc qui est très important dont je vous ai déjà parlé, c'est d'accepter le point de départ. Ok, je suis descendu plus bas. Comment je me reprends? Que ferait mon... Et là, c'est là où t'as besoin d'être ton meilleur pote. De dire, ok, bon, bah, c'est pas grave, mon gros, tranquille, t'as raté. Maintenant, il faut se remettre en route. Comment est-ce qu'on s'y remet gentiment? Et en fait, on abaisse le seuil d'action. Le plan, il change. T'es plus sur la même trajectoire qu'avant. Il faut que tu t'acceptes de redescendre d'un niveau. Et en fait, redescendre d'un niveau, ça vous permet de ne pas redescendre de 10 niveaux. c'est ça qui est cool et qui est très, très dur à identifier parce que il y en a qui vont s'en servir pour se mentir à eux-mêmes. C'est dire, ah, bon, c'est pas grave, vas-y, je redescends d'un niveau. Mais, pratiquement, en fait, si t'es dans une quête long terme, tu vas toujours avoir des moments où tu vas devoir utiliser cette technique-là parce que tu vas sortir du rang. C'est inévitable, sortir des rails. Voilà. Et donc inversement, quand t'es bien, donc quand t'as un coefficient directeur positif, la dureté avec toi-même, donc le fait d'être l'autoflagellation entre guillemets, c'est-à-dire gros, t'es pas une salope, vas-y, qu'est-ce que t'attends de toi-même, t'es une grosse merde de pas aller à la salle, ça te fait aller encore plus fort. Et c'est ça qui est trop stylé, c'est qu'est-ce que t'attends de toi-même. Ok, j'ai fait 2 séances, vas-y, je peux faire une 3e. Et tandis que l'indulgence, ça te fait ralentir. Et c'est ça qui est paradoxal, mais je suis content parce que je suis convaincu que c'est une résolution. Elle n'est pas parfaite, mais en tout cas, elle aide. Dites-vous bien, est-ce que je suis content des 7 derniers jours qui viennent de se passer, sur mon objectif en particulier? Si non, vous n'êtes pas content, eh bien vous êtes votre meilleur pote, vous essayez de redresser la pente. Et si vous êtes content, vous pouvez vous fouetter un peu, parce que vous savez que vous pouvez le prendre. Et tout dépend, à la base, d'être dans un constat honnête. Si vous êtes capable de faire une... De toute façon, tout est construit là-dessus. Je pense que le jour où je commence à me mentir à moi-même, ça fait tomber tous mes théorèmes à l'eau parce que ça se base sur les mauvaises données. D'ailleurs, voilà. C'est une très bonne façon d'ailleurs. On précise de faire prendre une mauvaise décision à quelqu'un de très intelligent, c'est de lui donner les mauvaises données. Et voilà, donc la mauvaise analyse du réel est un coupable facile. Voilà, donc c'était sur l'autoflagellation, c'était la pendule numéro 4. On passe à la pendule numéro 5 qui va aller très vite. Vous m'avez beaucoup posé la question de comment choisir ses associés. Ça revient tout le temps. Alors, j'ai pas de tuto, et les questions en comment, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal à donner des tutos parce que je raisonne pas du tout comme ça dans ma tête. Et je regardais un truc de Sam Altman, je crois que c'était je suis en train de me remater à un cours sur YouTube de Grayscale, Greylock Partners, le fond de, dans lequel il y a Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, qui est un cours à Stanford sur le blitzscaling. C'est le nom de la holding, d'ailleurs je vous avais peut-être déjà dit, le nom de la holding qui prend les participations dans les agences, ça s'appelle Blitzscaling, c'est le nom d'un bouquin, et c'est inspiré du Blitzkrieg. Donc c'est le cours numéro 2 je crois, où Sam Altman est interviewé, et en fait il est trop fort. Sam Altman il est vraiment capable de parler en idées, et donc j'adore ça, c'est comme Naval et tout, franchement j'adore ces idées-là, parce que ça, il dit des punchlines qui te font réfléchir, et donc il a dit ce truc à un moment qui m'a fait mettre la vidéo en pause, il m'a dit qu'il y a deux types de problèmes dans une association. Il y a les gens qui veulent des trucs différents pour la boîte, c'est les différences de vision. C'est les associés qui vont dire, moi je veux attaquer l'Europe, moi je veux rester en France, ou je veux faire un produit grand, je veux faire un produit cher, moi je veux faire un produit pas cher. Bref, il y a des milliards de différences de vision qui créent du chaos et qui peuvent pas coexister longtemps quand tu veux pas la même chose pour la boîte. Et il dit une deuxième raison que je n'avais jamais entendue ailleurs, c'est le premier problème c'est quand les gens veulent les choses différentes pour la boîte, et le second problème c'est quand les associés veulent la même chose pour eux-mêmes. Et donc là, ça a mis un peu de temps à descendre. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque associé a un intérêt personnel dans le fait d'être associé avec les autres, dans l'entreprise qu'il est en train de monter. Vous savez, c'est souvent des choses assez simples. Il n'y en a pas des milliards. Il y en a qui sont là pour la gloire. Il y en a qui sont là pour l'argent. Il y en a qui sont là parce que c'est une aventure à plusieurs. Ils aiment bien l'équipe avec laquelle ils travaillent. Il y en a qui sont là pour l'exercice intellectuel. Il y en a qui sont là pour être connus. Et en fait, tu peux pas en avoir deux. Deux qui veulent la même chose. Si t'en as deux qui veulent la gloire, t'en as deux qui veulent être dans les magazines, si t'en as deux qui veulent le maximum d'argent, c'est chaud. Et donc ça pose un autre problème aussi, c'est que plus un fondateur, un des associés, va tout vouloir en même temps, plus il va aliéner en fait les autres. Plus moins il va pouvoir avoir d'associés. Ah non, mais je veux être le plus connu, mais aussi le plus riche, et je veux... Et en fait, voilà, bref, il faut bien savoir... Qu'est-ce que toi, tu viens chercher déjà dans ta boîte? Et ensuite, qu'est-ce que les associés viennent chercher. Et tout, en fait, les désalignements d'intérêts vont venir de ce truc-là. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, vous savez, on dit souvent que c'est compliqué d'avoir plus que 4 associés dans une boîte. Et pour moi, ce petit modèle-là explique. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup plus que... J'ai dit gloire, argent, l'aventure. L'aventure avec l'équipe. L'exercice intellectuel. En fait, il n'y en a pas des milliards. Et souvent, vous voyez, c'est pas, les agents sont rarement là pour une raison en particulier. Il y en a une qui domine sur les autres, mais si on retirait les autres, ça les fraîchait. Je pense que moi, c'est surtout la gloire. J'ai envie de construire quelque chose de gros, qui marque. Pas forcément l'argent. Même si je serais content, ça me fraîchait de pas gagner d'argent avec. J'aimerais pas que le truc soit pas stimulant intellectuellement. Et en fait, je trouve que déjà, ça m'a confirmé que je pense que la réunion d'intérêt dans notre association, avec tous les gens avec lesquels je suis, est bien. Et ça montre aussi, voilà, pourquoi est-ce qu'il peut pas y avoir trop d'associés dans une boîte. Parce que tout le monde peut pas, tirer la couverture sur lui-même, tirer la couverture sur l'intérêt qu'il a pour la boîte. Enfin, vous avez compris, mais en tout cas, j'ai trouvé l'idée très intéressante. On termine avec la pendule numéro 6. On a combien de temps d'enregistrement là ? 1h05, parfait. Pendule numéro 6, à la campagne, tu fais ce que ton père fait. Bon, alors, vous le savez, mon travail chez Koudak aujourd'hui opérationnel, c'est quoi ? C'est de trouver des nouvelles agences à intégrer dans l'écosystème. Koudak. Donc d'ailleurs, si vous avez une agence qui fait moins de 20 000 par mois et que vous voulez qu'on vous aide à blitzscale tout ça jusqu'à 80 000 par mois, eh bien, vous pouvez m'envoyer un petit message sur Instagram et on verra si ça complète bien ce qu'on fait. Et donc du coup, je vois pas mal de fondateurs d'agences, d'abord en visio 15 minutes, puis après en visio un peu plus longtemps, puis parfois en déjeuner, je sais pas quoi. Bref, donc j'ai déjeuné la semaine dernière avec un potentiel fondateur d'agence qui vient de la campagne belge. Et il me décrivait qu'à la campagne, il y a pas beaucoup d'ambition, et en fait on te juge quand tu as de l'ambition. Il y a un réflexe quand quelqu'un essaie de faire quelque chose de différent, c'est qu'on va lui dire mais pour qui tu te prends, et tu te prends pour quelqu'un de mieux que nous à penser. En fait, c'est pris directement comme une insulte aux gens qui ne font pas ce que tu es en train de faire. Alors je pense que déjà, c'est pas caractéristique juste de la campagne belge, je pense que c'est pas un peu partout pareil, et pour dans n'importe quel milieu quand tu veux faire un truc un peu différent. Et en fait, le problème, d'où il vient ? Et vous allez voir où je veux en venir. La source, en fait, de ce problème-là, c'est qu'il y a un énorme déficit de représentativité. Ça veut dire que ce qui manque dans ces milieux ruraux, c'est des exemples de gens qui ont fait ce que vous voulez faire. Et du coup, ça fait que quand il y a quelqu'un qui veut créer un nouvel exemple, eh ben, forcément, on va le ramener dans le rang. Tu te prends pour qui ? Personne ne l'a jamais fait ici, t'arriveras pas. Et donc, en fait, le gars, il me racontait qu'il était au collège avec un très bon pote, ils étaient très bons potes, et ils ont mis genre plusieurs années avant de s'avouer l'un à l'autre qu'ils étaient en train de faire des trucs sur Internet, gagner de l'argent, bref, faire des petits business. Et je trouvais ça très intéressant, parce que bon, déjà, ça me donne deux réflexions avant de parler du main point de cette pendule. Réflexion numéro 1, c'est je pense que déjà, mes gosses, je leur ferai une thérapie d'exposition aux gens qui ont des valeurs que je kiffe. Très important, parce que ça me donnait un head start énorme. Et c'est aussi pour cette raison, d'ailleurs, que j'ai pris la décision de cultiver mon cercle social. C'est aussi important que de faire grossir ma boîte, c'est parce que je veux avoir, il faut que je les ai autour de moi, c'est les gens qui collent à mes valeurs, pas juste moi. Et la réflexion numéro 2, c'est, bon, bah, Dieu bénisse Internet, parce que Internet va justement compenser ces déficits de représentativité, et donc vous aurez peut-être pas un turbo chat dans votre entourage, mais vous pourrez le trouver en quelques clics sur Internet. Et donc ça va vous montrer que c'est possible. Mais après, bon, ça marche jamais aussi bien que d'avoir quelqu'un qui vient du même milieu que toi exactement, et qui a réussi à faire ce que tu veux faire. C'est en ce sens-là que quelqu'un peut être inspirant. Je vous avais aussi déjà parlé d'un moment où j'étais allé voir Shang-Chi, le film sur le héros Marvel, avec un pote asiat, et avec qui ça avait fait un peu... C'était un peu... Il y avait de l'émotion, quoi, parce qu'il n'y a pas de héros asiat. en fait, c'est des points qu'on a... Quand on n'a pas été dans cette situation-là, on ne se rend pas compte. Donc c'est important, la représentativité, c'est important, c'est ce qui explique que les écoles de commerce facturent aussi cher, c'est parce que ça te met dans un environnement où des gens comme toi ont fait des trucs stylés, et c'est ça que tu payes. Et voilà. Donc ça c'est des petites réflexions, mais c'est que dalle. Ça a juste fait écho à une autre réflexion que j'étais en train d'avoir, c'est que je me casse le cerveau sur un truc en ce moment. C'est que dans mon audience, il y a des e-commerçants, il y a des entrepreneurs, mais je pense que là où j'ai la plus grosse couverture nationale, c'est sur les fondateurs d'agences. Je pense que il n'y a pas, voilà, il y a une grande majorité des fondateurs d'agences qui ont Internet, qui consomment un peu de contenu, qui ont déjà vu un de mes contenus quelque part. Parce qu'on n'est pas beaucoup, en fait, à partager du contenu sérieux sur les agences. Et donc, si jamais il y avait un observateur extérieur qui venait dans ma boîte, un bon consultant avec un gros cerveau, avec comme seul objectif de dire, bon, moi, je vais construire la plus grosse carrière pour Théo. Sur quelle boîte est-ce qu'il est? Enfin, quel produit il devrait construire? Sur quelle audience? Qu'est-ce qu'il devrait targeter pour gagner le maximum d'argent possible et faire un truc qui a de l'impact? Eh bien, il dirait que je suis un idiot de pas rentabiliser cette attention de gens qui écoutent ce que je raconte, pour lesquels je peux être très utile et qui peuvent me payer beaucoup d'argent pour cette utilité que je suis prêt à leur mettre à disposition. Donc, le problème, c'est quoi avec ça? C'est que les formations vidéo, faire une agence, je peux pas. J'y arrive pas. Je ne pourrais pas me regarder. Enfin, ou alors, j'ai pas trouvé le bon format, disons. On va dire comme ça, pour être moins jugeant avec ceux qui le font. Je me vois pas être dans une pub. Salut, je t'apprends à monter ton agence jusqu'à 100 000 euros par mois. Oh, j'aurais du mal. J'aurais vraiment, vraiment beaucoup de mal. Et bon, potentiellement, je sais pas, je peux changer d'avis dessus dans le futur. Mais voilà, bon, j'arriverai pas. Et donc, en gros, ça me pose problème parce que voilà, c'est une opportunité aujourd'hui qui existe dans mon audience que j'ai aucune idée de comment exploiter et qu'en fait, une bonne décision entrepreneuriale, ça serait de découvrir un truc là-dessus. Et donc, voilà, pourquoi est-ce que cette discussion que j'ai avec le mec au déjeuner a éclairé un peu ma réflexion là-dessus? C'est que il y a une façon d'être utile aux gens que j'avais pas comprise et qui en fait pourrait un jour peut-être faire l'objet d'un produit là-dessus ou d'une boîte, c'est montrer que c'est possible. Alors, il y a une partie des gens qui vont entendre ça, vont se dire c'est bullshit, et une partie des gens qui vont comprendre ce que je vais dire. Parce que moi, j'ai compris ce que ça voulait dire en consommant les contenus d'Oussama sur Internet. C'est ce que ça a fait pour moi. Aujourd'hui, je pense que si on devait quantifier la valeur du truc aujourd'hui, donc la direction qu'il a contribué à changer au tout début de ma carrière, entre guillemets, c'est en millions d'euros, je pense. Le fait de m'avoir éveillé aux startups et de m'avoir donné envie de me bouger le cul. Et j'en parlais aussi. En fait, c'est cet environnement Internet dans lequel il m'a foutu. Il a réussi à me faire venir à The Family. Je suis allé voir des conférences et tout. Je me suis nourri de ses paroles et il m'a changé quelque chose dans la tête. Même chose. Et donc, j'en parlais sur un tout autre plan avec le fondateur de Finari, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Mounir Lagoun, avec qui j'ai déjeuné il y a quelques semaines. Et qui, lui, il a fait Y Combinator. Il disait que c'était la meilleure décision de sa vie. Et c'est marrant, c'est comme tous les gens qui ont fait Y Combinator. Quand tu leur demandes pourquoi, ils gravitent tous vers la même chose. Ils disent l'environnement. Et en fait, il dit, en gros, c'est l'exposition, je pense, aux idées américaines, à des entrepreneurs de ouf, qui a une valeur, mais qui est monumentale. Qui est monumentale. C'est qu'en fait, tu as des gens que tu côtoies, que tu peux appeler quand tu veux, avec lesquels tu es, t'es dans le même groupe qu'eux, vous avez tous fait YC, et ils ont tous une ambition de grand malade. Et donc, ça élève ton niveau d'ambition, et je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres moyens, en fait, d'élever ton niveau d'ambition, que de parler à des gens comme ça. Et donc, ce truc-là, je me suis dit, c'est peut-être la seule utilité que je serais prêt à avoir pour des fondateurs d'agences. Parce que je vois l'utilité que ça a eu pour moi. Alors que là, je vais vous livrer quelque chose en exclu. Je me souvenais que j'avais écrit un mail à The Family pour apply. Et je l'ai retrouvé. Je l'ai écrit en anglais. Et je voulais vous le lire pour comprendre qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce que ça produit comme effet sur un entrepreneur quand quelqu'un lui élève son niveau d'ambition, quand quelqu'un lui montre que c'est possible. Donc je vous lis le mail, il est un peu long. Je l'ai retrouvé. Il date du 13 septembre 2020. Donc j'ai monté Kodak 1er avril 2020. À cette époque-là, on pensait que je voulais vraiment faire une boîte start-up. Je vous lis le mail. Donc le titre c'est quoi? C'est Soon to be kicked out of HEC Entrepreneur looking for a family. Donc je vais bientôt me faire tèche d'HEC Entrepreneur, je cherche une famille. Donc c'était le moment où j'avais reçu le mail du gars là, qui voulait me virer du master. Hello, I am 22. I started out building Facebook and Instagram ads agency called Kodak. The company is 6 months old. Bon, je vous fais les traductions. J'ai 22 ans, j'ai commencé à construire une Facebook Instagram ad agency qui s'appelle Kodak. Ça fait la compagnie à 6 mois. Right now, there's 5 of us and we will be making 30K monthly revenue in September. We grew mainly through a content strategy on LinkedIn. Donc, rien que vous ne sachiez pas. Hein. À l'époque, on était 5. Et nous allons faire 30 000 euros de revenus en septembre. Et nous avons principalement grossi avec la stratégie de contenu sur LinkedIn. My goal right now is to scale through launching a product for marketers. Donc, j'ai envie de lancer un produit pour les marketeurs et scaler comme ça. I want to help Facebook ad buyers create better ads by creating a subscription service to a creative bank where only the best ads will be showcased and analyzed. Putain, mon accent de merde. J'ai envie de créer une banque de contenu auquel tu payes, bref, pour faire un produit qui donne accès. Bon, aujourd'hui, ça existe maintenant d'ailleurs. Je crois que ça gagne plein d'argent. Donc, une banque de d'ads. The first version of the product will be launched in 2 weeks. Donc ça, c'est là où on avait fait un truc qui s'appelle la caverne des scroll stoppers, une vieille merde qui existe toujours d'ailleurs. À l'époque, moi, je dis une vieille merde, parce qu'à l'époque, la première version était vraiment une merde. Voilà. Donc là, premier paragraphe, c'est pour qu'il sache qui je suis. Donc j'écrivais, c'est Balthazar qui m'a répondu. In September, I joined XHEC Entrepreneur Program as the part of my last year as an HEC student from prépa, even though I wish I could have kept, I could have kept working on my own. Donc j'ai rejoint Master HEC Entrepreneur, mais j'aurais préféré pouvoir travailler tout seul. That leads us to last week. Ceci nous amène à la dernière semaine. When after explaining to them that I could not spend too much time working on their entrepreneur simulation projects because I'd rather use their help to develop my own. Ça nous amène à la semaine dernière où malgré le fait que je leur ai expliqué que je ne pouvais pas passer du temps à travailler sur leur projet parce que j'aurais bien aimé utiliser leur aide pour le mien, they told me that it was incompatible with the spirit of the program and I was going to get kicked out. Bon, je ne vous fais pas la traduction, c'est incompatible avec l'esprit du programme, j'allais me faire têche. Ensuite, troisième paragraphe. This is the reason why I am sending this email. I honestly don't think I need a mentor. Donc, même à l'époque, je disais ça. Je ne pense pas que j'ai besoin d'un mentor. But I need an environment that fits my mindset. J'ai besoin d'un environnement qui correspond à mon mindset. I am not looking for someone to tell me what to do, but rather for someone that will help me ask myself the right question when building a product, which is something I have never done before. Je ne cherche pas quelqu'un pour me dire quoi faire, mais plutôt quelqu'un pour m'aider à me poser les bonnes questions quand il s'agit de construire un produit. Which is something I have never done before. Mais vous voyez, en fait, j'avais déjà en substance tous les trucs que je vous partage aujourd'hui. C'est marrant d'ailleurs. Je l'ai retrouvé, je l'ai lu une fois avant, ça n'a pas eu le temps de descendre. Et putain, mais c'est la même chose que ce que je viens de vous dire en fait dans la pendule d'avant. C'est vous poser les bonnes questions, pas vous donner les réponses. The main reason why I'm coming to you is to join a family of people that would make my entrepreneurial journey more enjoyable. La principale raison pour laquelle je rejoins, c'est pour rejoindre une famille de gens qui vont rendre mon aventure entrepreneuriale plus agréable. As many others, I started my business because of the Usama videos. So even if you do nothing for Kudak, I'd love to give you 5% of equity. Entre parenthèses, even though to be honest, what I learned from him is probably worth way more. Et comme plein d'autres, j'ai commencé mon business en regardant les vidéos d'Usama. Et donc même si vous ne faites rien pour Kudak, j'adorerais vous donner 5% d'equity. Entre parenthèses, même si je pense que ce qu'il m'a apporté vaut bien plus. Have a good weekend, Théo. Vous vous rendez compte? Je savais, j'étais prêt à leur donner 5%. Et je pense que ça ne s'aurait pas été volé pour ce qu'ils m'avaient filé. Et je pense que si un jour je fais un business pour aider les agences, je fais un truc comme ça. J'essaierai d'avoir déjà l'impact, parce que je n'ai pas encore l'impact à Usama sur les gens, d'avoir cet impact-là et de réussir à le monétiser d'une façon ou d'une autre. Parce que imaginez en fait si tous les gens comme moi là, parce qu'en fait Usama m'a aidé, mais il a pris 0% dans ma boîte. Hein. Imagine si Usama en fait avait réussi à monétiser de familier avec ce truc-là. Donc rentabiliser les changements de mindset qu'il a produits chez les gens. Et bah c'était ça en fait là, je pense, le secret de The Family. Le cœur de la valeur qu'il apportait, c'était ça. Ils ont jamais réussi en fait à trouver de business model associé. Ça a été pas très bien modélisé en fait. On parle souvent hein, du fait que The Family a souffert de son manque de business model. Et bah celui qui arrive à monétiser ça là, ce que je décris dans ce mail, ce que Usama avait prévu sur moi, eh bien je pense qu'il pourra devenir très riche et être très utile aux gens surtout. Ça c'est précieux. Voilà. Et donc, je me suis rendu compte que les Discord, là, que j'ai créé un petit peu plus tôt, donc Road to Scale, c'était un test dans ce sens. Est-ce que les gens sont prêts à payer 80 euros par mois pour avoir de l'accountability et un peer group 100% en ligne? Donc, c'est une première step dans ce sens. Donc, la réponse pour l'instant, c'est oui. On va voir. Bon, écoutez, s'il y a autant de gens au second trimestre qu'au premier, il y en aura certainement des nouveaux aussi qui vont nous rejoindre parce que je vais rouvrir les candidatures dans 2 semaines. Guettez bien l'épisode de fin de trimestre sur le bilan des objectifs. Ce sera à ce moment-là. Et en fait, ça donne un petit peu la direction produit de ce Discord-là, c'est qu'en fait, il faut continuer à développer des fonctionnalités qui vont permettre aux gens toujours d'être accountable sur leurs objectifs, mais aussi surtout d'avoir des fonctionnalités qui montrent que c'est possible. Qui montrent qu'il y a d'autres gens qui font des trucs que tu as envie de faire. Et qui te montrent que c'est possible, qui sont pas si différents de toi, que tu les rencontres. Et en fait, le meilleur truc qui peut vous arriver quand vous rencontrez quelqu'un qui a fait un truc de ouf, c'est que vous vous disiez « Putain, mais en fait, il est pas si incroyable. » Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça, bande de petits bâtards, que vous écoutez cet épisode, ce podcast, bande de salauds là. C'est pour ça, c'est parce que quand je bégaye, quand j'arrive pas à trouver mes mots, quand j'arrive pas à tomber sur la conclusion de mes idées, vous vous dites, c'est ça en fait 5 millions de CA annuels. Et je suis ravi de faire ça pour vous. Et je vous encule aussi en même temps. Mais voilà, bref, ce truc-là, ça me parle. Ça me parle et je trouve que c'est ça. Donc à la campagne, tu fais ce que ton père fait. Il me disait ça, il me disait parce que sinon tout le monde te juge. Eh bien, je pense qu'il y a un vrai business à faire en sorte que tu puisses créer des vocations chez des gens et que ça devrait se monétiser. et qu'il y a plein de gens qui comprendront pas, mais les gens qui comprendront, comprendront. Voilà. Donc, c'était la dernière pendule. On passe au meilleur de la semaine, ensuite on va se quitter tranquillou, et je vous termine avec des petites citations pour égayer vos idées. Donc, une autre citation de James Clear que j'ai bien aimée, qui dit « Le moyen le plus simple de clarifier votre pensée est d'écrire une page entière sur le sujet qui vous préoccupe, puis de supprimer tout ce qui n'est pas là ou les phrases qui l'expliquent le mieux. » Alors ça, c'est stylé. Hein. Je reprends toujours la même citation pour expliquer ça. Je ne sais plus quelle personne qui disait « Je vous écris une longue lettre, car je n'ai pas le temps d'en écrire une courte. » Boileau. Je vais chercher quand même, parce que comme ça, ça rentrera. Je vous écris cette longue lettre, car je n'ai pas le temps de vous en écrire une courte. Hop. C'est Pascal. Merde ! Je vous écris une longue lettre parce que je n'ai pas le temps d'en écrire une courte. Blaise Pascal. Voilà. Bien écrire, c'est un exercice de synthèse. Donc vous pouvez aller lire Solve de mon associé Paul Meyer si jamais vous voulez savoir ce que ça veut dire bien écrire en anglais. Numéro 2. Encore James Clear, putain. The beginner chases the right answers. The master chases the right question. Le débutant cherche les bonnes réponses. Le maître cherche les bonnes questions. Je vais pas les commenter, je vous laisse réfléchir dessus. C'est marrant, comme tout est lié en fait. J'ai pas fait exprès, mais il y a pas mal de, il y a un petit fil directeur dans cet épisode. Et bon, après j'ai une autre citation de Sam Altman qui est dans la même interview là que dont je vous ai parlé un peu avant. Il dit que the only guys that should start companies are the ones that cannot not start it. Je crois que c'est lui. Donc les seules personnes qui doivent lancer des companies, c'est les gens qui ne peuvent pas ne pas en lancer. Et putain, c'est pour ça qu'en fait j'en ai marre moi des trucs, des gens qui cherchent des idées de boîte, qui je disais ah j'hésite entre le conseil en stratégie et l'entrepreneuriat. Mais ça n'existe pas en fait. Tu as ta réponse. La réponse elle est dans la question. C'est le conseil en stratégie. Va en conseil en stratégie. C'est pas une question qu'un entrepreneur se pose. Ça n'existe pas. En fait, c'est pas, ça veut dire que tu l'as pas. C'est comme le product market fit. Tu poses la question de si tu l'as, tu l'as pas. Voilà. Et ensuite, je voulais vous lire une petite citation qui vient de donc ce TED de Joya là, Goya, dont je vous ai parlé avant, qui dit the new culture, he explained, is defined by the absence of culture, with a capital C. Donc la nouvelle culture est caractérisée par une absence de culture. The new culture is not even entertainment. Everything is being replaced by compulsive activity. Et donc là, il y a un petit graphique que j'ai partagé aux gens qui sont dans le Discord, dans lequel il montre comment est-ce que chacune des activités de notre ère est en fait est passée par plusieurs phases. Donc il y avait d'abord la slow traditional culture. Donc la culture lente et traditionnelle, qui est ensuite devenue fast modern culture et qui est enfin devenue dopamine culture. Et donc il prend plein d'exemples. Il dit comment est-ce que les athletics, donc le sport, a suivi cette. En fait, il y a sept catégories, je vais vous donner. Donc là, pour les athletics, au début, tu jouais à un sport. Donc c'est la slow traditional culture. Après, la fast modern culture, c'est que tu regardes un sport. Et la dopamine culture, c'est que tu gambles sur un sport. Donc tu fais des paris sportifs. Le journalisme, c'est pareil. D'abord, tu lis les journaux. Puis tu regardes les médias, donc tu consommes passivement la télé par exemple, et ensuite la dopamine culture c'est le clickbait. T'écris des titres putaclic pour choper des trucs. Voilà. D'un point de vue vidéo, d'abord tu mates des films et de la télé, puis tu mates des vidéos sur YouTube, puis tu mates des reels. Et c'est très intéressant comme le modèle en fait il est partout pareil. La musique par exemple, la musique c'est la même chose. Il dit d'abord t'écoutes des albums, puis après t'écoutes des sons, des tracks, et puis ensuite tu regardes des TikTok. Tu regardes même plus les sons en entier. Bon bref, en tout cas tout ça pour dire, je sais pas trop comment me positionner en fait sur cette dopamine culture parce que il faut quand même un peu l'utiliser pour amener les gens vers du contenu long. Donc si déjà sachez que si vous écoutez ce contenu jusqu'au bout, là, je sais plus combien de temps ça fait, 1h20, vous êtes probablement pas dans les plus touchés par ce truc là. Donc bravo, mais faites attention quand même. Ça nécessite pour moi c'est plutôt un appel à mettre un peu d'intentionnalité dans le fait de faire attention à toute la colonne de droite. Là, je pourrais pas vous partager le truc. Donc, en gros, je vais vous les lire comme tous les trucs auxquels faut faire attention dans la dopamine culture. Les paris sportifs, le contenu clickbait, les reels, les TikTok, le scrolling mindless, enfin, sans cerveau sur un téléphone, et les swipes sur une app dont on taira le nom. Ce sont les apps de rencontre type Tinder. Voilà, parce que ça marche aussi pour les relationships. D'abord, avant, t'avais le mariage, après, t'avais la liberté sexuelle et après, t'as les swipes sur une app. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah écoutez, les amis, je vais vous laisser sur une petite citation de fin. La confiance en soi ne vient pas de la certitude du succès, mais du confort dans l'échec. Elle est de moi. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez passé un moment pas trop désagréable avec moi. N'oubliez pas d'aller mettre une petite note. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Road to 10 Million. Je m'en vais dans le Discord faire le live avec les Road to Scalers. Et bisous.